I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Au début, j'ai eu des grosses périodes de doute. comme...
Normal.
et j'osais pas en parler. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler de ces doutes-là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient ce même cheminement-là.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ça y est, les trois quarts du confinement sont derrière nous, encore que, bon, tout n'est pas encore joué, on verra bien. Et donc, j'en ai profité pour faire un petit break, histoire de me reposer et prendre un peu de recul sur le podcast. Pas mal de petites nouveautés qui se profilent pour les prochains mois, mais en attendant de vous raconter tout ça en temps et en heure, aujourd'hui, je suis surtout très heureux de vous retrouver afin de partager avec vous ma discussion avec Chloé Romanga, auteure et dessinatrice, notamment spécialisée dans le sujet du haut potentiel, de la douance, de la précocité, enfin appelez ça comme vous voulez. Chloé ne prétend pas être psychologue ni même professionnelle du sujet, elle se présente plutôt comme une chercheuse, une journaliste en quelque sorte. Et ça, ça me parle. Chercher et approfondir, vous l'avez déjà remarqué, c'est ma came. J'ai découvert le travail de Chloé il y a un peu plus d'un an et demi à travers son blog Rayures et Ratures. Et vous le comprendrez très rapidement, son travail a eu un énorme impact sur moi. Bien plus gros que je n'aurais pu l'imaginer car c'est grâce à Chloé que j'ai fait quelques petites découvertes non négligeables à mon sujet et qui ont changé la donne. Et ça, ce n'est pas rien. C'est d'ailleurs ce qui rend cet épisode tout particulier pour moi. J'ai adoré cette discussion car on aborde de très nombreux sujets qui me sont chers. On discute bien sûr de son parcours, de sa découverte du haut potentiel, de son besoin de comprendre, d'expliquer et de transmettre à travers la création de son blog, mais également de son rapport au dessin, aux réseaux sociaux, aux critiques négatives, à l'échec et à son besoin de liberté et d'indépendance. Tout un programme. Sans plus attendre, voici donc ma discussion avec Chloé Romanga. Bonne écoute. Bon voilà, en tout cas, si c'est bon pour toi.
Ouais, c'est bon pour moi, j'ai hâte.
Allez, rock and roll. Eh bien, Chloé, bienvenue sur Sens Créatif.
Merci.
Je suis super, super content que tu sois là. En fait, on se parle sur Internet depuis une petite année.
Ouais. Et, un an déjà?
Bon, je pense. Ah ouais? Quelque chose comme ça.
Je sais pas du tout. Ouais.
Ou peut-être un peu moins.
Peut-être plus, peut-être moins, j'ai aucune idée, mais ouais. Ça fait un petit moment, ouais.
Et tu sais que ton livre, on va en parler, ton blog et ton livre Rayures et Ratures a eu un véritable impact sur moi. Et donc, voilà, je suis super content de pouvoir parler avec toi de vive voix.
Et ben moi aussi, je suis ravie d'être là à Paris.
Ah oui, parce que c'est Chloé en tournée à la Bicabillon, mais elle est de passage...
Exactement, trois jours, on rentabilise.
Voilà, c'est ça, je savais qu'elle venait, pouf, allez, c'est parti. Bon, du coup, Chloé, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Ah, je me demande si pour la saison 2, t'allais faire la même question. Mais
ah, oui. toujours.
Ce qui me motive à sortir du lit le matin, à part mes chats qui grattent à la porte, c'est... l'idée, tu sais, les je sais pas si c'est pareil pour toi ou pour d'autres ou c'est juste moi, mais au moment où tu t'endors et au moment où tu te réveilles mais t'es encore un peu somnolent, ton cerveau fait plein de connexions très étranges et liées aux projets que t'as en ce moment qui sont en cours et liées à plein d'autres trucs que t'as vu ou entendu dans ta journée, et du coup ça t'arrive toujours, enfin moi en tout cas le matin, vraiment quand je somnole et que je suis en train de me réveiller, j'ai des super idées que je trouve super, alors pas forcément après coup, mais en tout cas sur le moment je les trouve vraiment super, et je me dis si j'attends d'être vraiment bien réveillée dans la vie réelle, je les oublie. Et du coup vraiment que je me réveille maintenant, que je les note et que je commence tout de suite, quoi.
Trop drôle.
Voilà.
Donc, pouf, t'as ces idées un petit peu abstraites, un petit peu embrumées, et tu dis, il faut vraiment pas que je les perde, quoi.
C'est ça. Après parfois je les perds parce que je mets trop de temps à me lever.
Normal.
Parfois je les perds pas et je me rends compte qu'en fait c'est une idée pourrie, mais parfois ça donne des trucs super aussi, tu vois.
Bah, carrément. Du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et dire ce que tu fais?
Ouais. Je sais pas exactement définir ce que je fais.
Très bien, on va chercher ensemble.
Je mélange l'écriture et le dessin, et j'aime bien expliquer des trucs un peu compliqués avec des dessins un peu mignons. et assez naïf, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un style très naïf. Et voilà, vraiment mélanger les deux. Je sais pas, auteur, dessinatrice, vulgarisatrice, un mélange de tout ça. Je me sens légitime dans aucun des trucs, mais un peu de tout, tu vois.
Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu ton sujet qui t'a amené au dessin.
Ouais.
Tu t'es rendu compte que ça pouvait vulgariser les sujets qui tiennent à cœur et t'as trouvé un nouveau plaisir dans le dessin, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, j'étais vraiment intéressée par un sujet. J'avais envie de sensibiliser là-dessus. J'ai cherché après comment faire. Et le seul moyen d'expression que j'ai trouvé, c'est ça.
Tu vois. Le dessin.
C'est le dessin et l'écriture. Il y a beaucoup d'écriture aussi dans les articles.
Oui.
Je fais des articles très, très longs.
Oui. Non, mais, et moi, ça me va très bien. C'est drôle parce que bon, voilà, j'en aurais sûrement parlé dans l'intro, mais le sujet de prédilection de Chloé, dans une certaine mesure, c'est celle de la précocité.
Ouais, et, intellectuelle.
La précocité intellectuelle.
Alors, je me rends compte qu'en fait, on n'a jamais défini exactement ce que ça voulait dire au potentiel. Il faut savoir déjà que tous les termes veulent dire la même chose, en fait, que ce soit au potentiel, surdoué, zèbre. Chacun choisit le terme qui lui parle le plus. C'est un choix, une décision qui est très personnelle. Et par au potentiel, du coup, on entend en fait un fonctionnement cérébral et cognitif qui est différent. Souvent, officiellement, le test, c'est le test de QI avec un QI supérieur à 130. Mais un chiffre de QI ne veut rien dire et c'est vraiment l'analyse du fonctionnement qui va déterminer en fait si on est au potentiel ou pas. Et voilà, donc c'est vraiment un ensemble de caractéristiques qui fait qu'on fonctionne différemment et qu'on a une façon un peu différente de voir le monde et de voir les choses.
Et moi, les pavés, les romans, les parenthèses dans les parenthèses, les digressions, j'adore ça. Et je me souviens, c'est ma femme qui avait découvert en fait ton blog.
Ouais.
Et elle me disait genre waouh, genre toutes les parenthèses et tout, et moi j'étais genre mais si, c'est fantastique et tout. Moi je fais ça constamment. J'ai appris un peu
à canaliser,
à synthétiser. D'ailleurs on y vient tout de suite. Ouais, c'est super dur. L'illustration, le dessin, ça permet de vulgariser en fait des idées complexes, mais comme notamment avec ce sujet de la précocité, c'est dur en fait. On a besoin de de tout dire, quoi, quelque part.
C'est ça. Moi, je peux incapable de m'arrêter, tu vois. Et même sur d'autres sujets, parce que c'était le premier, c'est celui qui m'a amené à ce métier artistique, du coup. Parce qu'avant, je faisais quelque chose qui avait rien à voir. Alors, les sujets d'après, c'est pareil. En fait, je les traite pareil. J'ai aussi besoin d'écrire beaucoup, de mettre des illustrations au milieu pour qu'on puisse respirer un peu.
Et que tu respires aussi.
Et que je respire aussi, tu vois, et que ça soit pas trop difficile à lire pour les gens aussi. J'essaie de, tu vois, ça permet que ce soit un peu assez léger.
C'est super important, surtout vu les sujets qui t'intéressent, tout ce que j'ai compris.
C'est un peu lourd.
Ouais, ou du moins c'est perçu comme lourd, c'est pas si lourd que ça en fait.
Non, c'est pas très lourd, mais c'est des sujets assez tabous, assez complexes et qui peuvent parfois être
mal compris
et tu peux facilement tomber dans le pathos aussi.
Ouais.
Et ça, j'aime pas, ni le pathos ni la colère, donc le dessin, c'est pas mal pour ça, tu vois.
C'est un bon état d'esprit, hein. C'est super important.
Ouais.
Pour moi, c'est aussi quelque chose d'important, ouais. Du coup, est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de... On va rentrer dans le steak, hein. Mais juste pour avoir un petit arrière-plan, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours et de ton arrière-plan personnel jusqu'à découvrir cette précocité dont tu parles, notamment dans...
Ouais, tu veux dire mon parcours scolaire, professionnel, avant...
Un peu ce qui t'a...
Tout est un peu lié, mais...
Oui, alors, je sais que il y a ce danger d'être exhaustif, toi et moi. Et du coup, c'est genre...
Pardon.
Non, mais je suis tout à fait fautif, moi aussi. Non, mais c'est un petit peu, voilà... aujourd'hui, tu es auteur, illustratrice, allez, disons ça. Utilisons les mots. Mais avant, tu faisais pas ça, et qu'est-ce qui... Dans ton parcours, tu as découvert cette précocité, que je partage aussi, voilà, je l'ai dit, et que j'ai découvert grâce à ton travail. Et comment, voilà, tu as découvert ça? Comment, tu vois?
Ouais, je l'ai découvert assez tardivement, parce que avant, on se posait peut-être moins de questions à notre époque. On dirait qu'on est vieux, mais non, mais j'ai 29 ans.
29, okay.
Mais mine de rien, il y avait quand même beaucoup moins d'informations là-dessus quand moi j'étais à l'école.
Ouais.
Et en fait, j'ai eu un parcours scolaire assez classique et linéaire, hein, tu vois. Le plus dur, ça a toujours été l'orientation.
Ouais.
Parce que j'aimais un peu tout. Et je savais pas quoi décider, parce qu'en France, c'est très cloisonné, tu sais, c'est littéraire ou scientifique. Mmh. Mais dès que tu veux un peu des deux, c'est compliqué. Et moi, j'aimais beaucoup le français, les langues étrangères, mais j'aimais beaucoup les maths aussi. Et il y avait rien pour mélanger les deux. Donc, c'était compliqué. Du coup, je suis partie en cursus plutôt scientifique. Après, je sélectionnais mes études par rapport aux matières enseignées et pas du tout par rapport au métier que j'allais faire après. Du coup, je me suis retrouvée en prépa école de commerce, parce qu'il y avait des maths, des langues, voilà. Après, au bout d'un moment, forcément, t'arrives en école de commerce, là, tu sais plus trop ce que tu fais là. Et en fait, tout au long de ces études, je me suis toujours demandé un peu ce que je faisais là, tu vois. Mmh. Où était ma place et pourquoi j'avais l'impression de jamais être à ma place, alors que les autres, ça avait pas l'air de les déranger ni de leur prendre trop la tête, tu vois. Ils étaient bien où ils étaient, puis ils vivaient leur vie. Et pas moi.
Bah oui.
Et donc j'ai cherché, j'ai testé un peu, après j'étais en école de commerce, donc je me suis aussi beaucoup demandé pourquoi je faisais ça, quel était le sens en fait de mes études, de mon métier, qu'est-ce que j'allais faire.
Ouais. Et mais
en c'est ça, sauf qu'en fait à chaque fois tu dois choisir littéraire ou scientifique. Et même en école, tu vois, c'était soit tu vas vers des métiers dans la communication, dans le marketing, un peu plus littéraire, où t'as de l'écriture, du graphisme aussi, même si c'est pas toi qui produis. Et soit la finance, où là t'as plus de maths, et contre toute attente, je suis allée vers la finance, tu vois.
C'est étonnant, vu ce que tu fais aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est drôle, hein. Bon, pas la finance de marché, faut pas exagérer, la finance d'entreprise, mais ouais, et puis bah après tu commences à travailler et tu te demandes pourquoi t'as choisi ça, mais en même temps tes potes qui font marketing communication, ça te plaît pas vraiment non plus.
Ouais.
Et puis j'ai démissionné pas mal de fois.
Okay.
J'avais besoin au bout de 6 mois, j'avais besoin de changer de travail à chaque fois. C'était un peu compliqué, et quand tu commences dans le monde du travail, c'est pas bien vu. Mmh. Et c'est là, tu vois, que je me suis posé la question et que je me suis dit bon, j'ai peut-être un problème. J'avais vraiment l'impression que c'était un problème
Ouais.
Et j'en ai discuté avec un employeur qui a 2 enfants détectés précoces.
D'accord.
Et avec ma tante aussi. Et ça m'a un peu convaincue de passer les tests, qui sont tests de QI selon l'échelle de Wechsler pour les auditeurs.
Voilà. On mettra des notes pour les petites précisions scientifiques.
Et voilà. Et en fait, je m'attendais à rien du tout. Et j'ai eu plein d'infos sur comment je fonctionnais moi.
Mmh.
Et pas, tu vois, pas un chiffre de QI et merci, au revoir. Juste plein d'infos sur mon fonctionnement, et j'ai trouvé ça génial, et en même temps j'ai trouvé ça dommage de pas l'avoir su avant. En fait,
t'avais quel âge?
J'avais 25 ans.
Ok.
J'avais sauté une classe, mais j'étais un peu en avance, j'ai eu un parcours très droit.
Ouais.
Du coup, j'ai à 25 ans j'avais eu le temps de faire pas mal de métiers déjà.
Ouais, je comprends bien. Ouais. Et là t'as la puce à l'oreille, tu fais ce test, et là tu découvres tout un monde qui t'était probablement inconnu.
Ouais. Ben ouais, puis en fait, enfin vraiment, je découvre le fonctionnement cérébral, la sensibilité, toutes ces choses que j'avais tendance à cacher parce que j'avais peur. En plus, on m'a toujours dit en entreprise, fais attention, tu vas te faire marcher dessus, t'es trop sensible, t'es trop gentille. Et non, en fait, du coup, j'essayais de camoufler ça. Mmh. Et aujourd'hui, c'est marrant, hein, parce que je pense que si mon activité fonctionne, c'est grâce à ça, tu vois.
Ben oui.
Et ça, je trouve ça plutôt cool.
Mais c'est au prix d'un cheminement, d'une quête de soi, de découverte, de redécouverte.
Mm.
Moi, comme je te l'ai déjà dit, quand j'ai découvert ton travail, c'était donc ton blog, hein, Rayure et Rature.
Ouais.
Un peu comme toi, je viens pas d'un arrière-plan où de notre temps, tous ces sujets-là, la psychologie ou le haut potentiel, zèbre et tous ces trucs-là, c'était un peu cliché, c'était cantonné un petit peu aux gens qui ont vraiment des problèmes et tout.
Mmh. Ou alors qui sont vraiment excellents.
Ouais.
Enfin, brillants.
Oui, des génies, voilà. Tu peux pas tester, quoi.
C'est
tu peux pas
parler. Préjugé, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'ai découvert ton boulot, les articles et tout, en fait, c'était un samedi matin. Et en fait, ma femme, elle lisait des articles, et puis elle en lit un premier, un deuxième, un troisième. Et en fait, c'était l'hallucination totale, tu vois. J'étais genre, mais en fait, c'est moi jusque, en fait, ce qui était perturbant, c'est que tu décrivais mon fonctionnement, de manière presque intime. Ça remontait à des histoires jusqu'à l'enfance, tu vois. Et aussi le sentiment de décalage dont tu parles aussi dans ton travail, sentiment de décalage que j'ai ressenti toute ma vie,
ouais,
depuis que je suis tout petit. Et c'était pas facile parce que ce sentiment de décalage a toujours été un profond malaise pour moi. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, on utilise d'autres mots et t'en parles notamment aussi dans ton bouquin, ce sentiment de pas pouvoir être aimé pour qui tu es.
Ouais. Ah, ça, c'est...
Et de découvrir qu'en fait, j'étais pas tout seul. En fait, ça s'arrête juste à ça. En fait, je suis pas tout seul.
Ouais.
Il y a plein de gens qui ressentent ce décalage-là aussi et c'est potentiellement une condition mentale. And it's okay. C'était ouf, quoi.
Ah, ça me fait plaisir, mais parce que c'est, moi aussi, je me sens moins seule, en fait, quand on me dit ça, tu vois. Parce que je reçois beaucoup, beaucoup de messages sur le blog. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis, mais en fait, vous, ça vous fait du bien, mais moi aussi, parce que, moi aussi, je me rends compte qu'en fait, on est nombreux et que c'est pas grave. Et ouais, c'est, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Mais tant pis.
Bah, se sentir.
Ah oui, je voulais dire, ouais, en fait, quand on ressent un décalage, mais qu'on l'explique pas.
Ouais.
Et que c'est ça qui est difficile. Et qu'en fait, là, on m'a rien changé, hein. Je suis comme avant. Sauf qu'en fait, je sais pourquoi. Et du coup, je sais expliquer ce décalage et j'en souffre plus.
C'est ça.
Parce que. Et ça change tout.
Par le passé, tu en souffrais aussi.
Bah ouais, en fait, je pense que tout le monde souffre d'une différence, quand il a pas réussi à, tu sais, quand tu ressens un truc, tu te sens, mais j'ai vraiment l'impression de pas être comme les autres et ça va pas, mais tu sais pas pourquoi, et du coup, ça rumine, en fait, dans ta tête tout le temps.
Ouais.
Et alors qu'en fait, maintenant, c'est une donnée que j'ai intégrée, j'ai compris, et ça fait plus, j'allais dire, ça fait plus partie de ma vie ici, mais ça, c'est plus au centre de mes préoccupations, quoi.
Ouais. Bah, comment dire? Moi, parfois, j'aime bien utiliser cette métaphore, t'es sur une sorte de champ de bataille, on te tire dessus, tu sais pas d'où ça vient. Que maintenant, en fait, tu sais, ah oui, c'est là où aussi, par exemple, par rapport à la précocité, c'est avant, tu la subissais, tu savais pas, enfin, tu le plus général, hein. Et aujourd'hui, maintenant, je sais qu'elle fait partie de ma vie, et donc, elle peut faire partie du voyage.
Ouais, c'est ça, c'est,
T'es là, c'est cool.
Ouais. C'est un petit colloque.
Ouais, c'est un petit colloque. Ouais, exactement.
Ouais.
Et je pense que ce concept du Me Too, tu sais, moi aussi, je ressens ça. Moi, ce podcast, c'est un peu ça aussi. Hein. Tu connais maintenant le projet. C'est né d'une période compliquée où j'avais besoin de réponses.
Ouais.
Et en fait, d'entendre d'autres personnes me partager leurs challenges, leurs galères et aussi comment elles ont fait. C'est genre, moi, ça me donne des outils de compréhension. Au final, on en revient toujours à ça, les outils de compréhension.
Ouais. Mais moi aussi, hein, parce que j'écoute le podcast, du coup, et à chaque fois, c'est un monde que je découvre et avec des préoccupations qui résonnent. Et où tu te sens moins seul aussi, et je trouve ça génial.
Ah, mais c'est super. On pourrait presque dire qu'on est chacun un gatekeeper l'un pour l'autre.
Ouais.
Tu vois?
Exactement.
Moi, c'est comme mon fonctionnement mental que quelque part tu m'as aidé. Et
oh,
moi,
c'est pour mon travail.
À ma mesure, le milieu de l'illustration,
ouais,
j'imagine.
Complètement. De l'image, de l'illustration.
Ouais.
Créatif, en fait. Parce qu'en fait, c'est dur quand tu viens pas. Du coup, quand t'as pas fait des études là-dedans ou que t'es pas dans un milieu avec beaucoup de créatifs autour, t'as que des gens qui ont un autre référentiel, en fait. Et quand au départ je me suis reconvertie, c'était pas forcément planifié.
Ouais.
Et c'est un peu fait par hasard. Et du coup, j'avais tous les gens autour de moi qui avaient des carrières très très stable dans le monde de l'entreprise et tout, qui me disait, mais attends, fais attention, Chloé, c'est maintenant que tu montes dans la hiérarchie, c'est à nos âges, fais gaffe, tu pourras plus revenir en arrière, ça va être compliqué, tu loupes un truc, t'es sûr, tu vois, donc tout le monde te fait douter. Et en fait, d'avoir un podcast sur le monde des créatifs et de voir que ça se passe, comment ça se passe pour les autres, c'est génial, en fait.
Et j'imagine qu'aujourd'hui, tu ne regrettes pas ton choix.
Pas du tout. C'est pas un choix, d'ailleurs.
Ah oui, ça c'est fait.
C'est fait malgré moi, tu vois.
Ouais.
Parce que j'ai lancé un blog. Du coup, quand j'ai passé le test, après je me suis dit c'est quand même tellement dommage de pas l'avoir su avant.
Ouais.
J'ai regardé un peu tous les livres sur le sujet, comme tout le monde, tu vois. Sauf que c'est vraiment des livres de psychologues ou alors des témoignages. Et je me suis dit, quelqu'un qui est pas sensibilisé au sujet, qui est pas concerné, jamais il va lire ça, tu vois. Je vais pas aller voir lire un livre de 300 pages par un psychologue clinicien sur un sujet qui me concerne pas.
Ouais.
Et je trouvais ça dommage, donc j'avais vraiment envie de sensibiliser aussi le grand public et l'entourage avec un truc plus joyeux, quoi.
C'est clair. Et puis ce besoin d'expliquer aussi.
Ouais.
Moi, Moi, je sais qu'aujourd'hui, bon là, c'est sûr que c'est un peu spécial parce que je le rends vraiment totalement public à travers ce podcast. Ce qui explique que c'est plus facile pour moi de le faire aujourd'hui, c'est que je l'ai totalement incorporé et j'en parle de manière relativement libre à mon entourage.
Ouais.
Et je pense que
c'est
ça
un grand pas.
Ouais, ben, j'imagine.
Ouais.
En fait, j'ai eu besoin de reconquérir mes couleurs. Tu m'expliques. Tu sais, dans ton livre, tu parles du vrai self et du faux self.
Mm.
Non, mais ça, c'est un truc de fou pour moi. Enfin, dans le sens où je pense que la personnalité de camouflage, et on va peut-être un peu l'expliquer, mais c'est un peu commun à tout le monde. On s'adapte.
Ouais, tout le monde en a eu. Hein.
Voilà, on fait tous ça. Mais je pense que pour moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et je me suis suradapté à tellement de contextes, à tellement de situations. Et je me souviens, mais genre, il y a des années, j'ai toujours dit ça, même plus petit, je disais que j'étais un caméléon. Mais je voyais pas ça de manière négative. J'étais juste genre, tout le monde est personne, tu sais, je me mergeais, tu vois, c'était assez
j'ai
facile.
J'ai fait pareil.
Allez, high five entre les caméléons. Ouais. Et, cette histoire de vrai self, de faux self, ou à un moment donné, moi, je pense que j'ai saturé, en fait.
Ouais.
Le faux self.
A pris trop de place.
Est-ce que tu pourrais un tout petit peu expliquer?
Ouais. Ouais, parce que le concept, du coup, de vrai self et faux self, le vrai self, ça va être la personnalité, en fait, authentique.
Ouais.
Et le faux self, ce que moi, j'appelle la personnalité de camouflage, hein, qui est pas du tout un terme
C'est toi
psychologique, c'est le mien. Et, je sais même plus comment c'est en psychologie, je sais plus. Mais moi, je trouve ça assez parlant, l'image de personnalité de camouflage, et qui, en fait, est là pour en société, tu vois, pour te conformer aux conventions sociales.
Ouais.
Et on en a besoin, parce que ça protège la personnalité authentique. Ouais. On a besoin dans plein de situations, mais après, voilà, il faut trouver le juste équilibre pour pas qu'elle grignote complètement la personnalité authentique et qu'en fait, ça soit 100% faux self.
C'est clair.
Qui est pathologique, d'ailleurs.
Ah ouais?
Ouais.
Comment ça?
C'est j'avais discuté quand j'ai fait l'article là-dessus sur le blog, j'ai un psychologue qui a commenté et qui a ajouté des informations, ce que je trouve génial, tu vois, c'est vraiment le
Ah ouais,
c'est enfin
super.
C'est l'échange, le partage, on ajoute des connaissances, et qui m'avait expliqué que le faux self pouvait prendre plus de place que le vrai self, et dans ce cas, il y a voilà un juste milieu à trouver. Mais quand le faux self a complètement absorbé la personnalité authentique, là, c'est un vrai cas pathologique grave. Ça relève de la psychiatrie et il faut consulter.
Ah oui, ok.
Voilà. Donc quand on a tendance à dire, moi j'ai l'impression d'avoir que mon faux self. Non, en fait, si on n'a pas de pathologie, il a pris de la place, mais on a quand même la personnalité authentique qui est là, le vrai self, et c'est possible de le faire ressortir.
Ouais. Moi, j'ai toujours ressenti cette tension. C'est-à-dire, je savais qui j'étais au fin fond de moi, mais c'était pas ce que je vivais vraiment, en fait. Alors, c'était un peu réservé à quelques amis privilégiés. Je me souviens, je me disais souvent, mais en fait, les gens me connaissent pas pour qui je suis vraiment, en fait. C'était terrible comme sentiment, c'était terrible.
Et est-ce que toi, tu savais qui tu étais vraiment?
Moi, j'ai toujours un petit peu associé au fait que j'étais un artiste, entre guillemets. C'est-à-dire, pour moi, cette identité d'artiste, je la porte depuis que je suis tout petit. Donc pour moi, ça n'a pas été... j'ai pas ce côté genre non, je suis pas un artiste ou ce côté... J'avais plus l'impression que c'était un poids à porter plus que le sentiment d'imposture. Tu vois, c'était plus genre, je suis artiste malgré moi. Et du coup, c'est comme ça que je l'expliquais. J'expliquais ma différence à travers ça. J'ai toujours été beaucoup plus intéressé par tout ce qui était artistique, par tout ce qui était culturel, par tout ce qui était les questions existentielles, les grandes idées du monde, tu vois, ce genre de choses. Du coup, c'est comme ça que je l'expliquais, tu vois. Mais qui j'étais vraiment, je pense que t'as pas la grammaire et le vocabulaire quand t'es plus jeune pour articuler ça. Parce que t'es encore en train de l'articuler. Et tu l'articules de manière brinque-ballante parce que t'es embourbré dans cette histoire dans cette condition que t'ignores.
Oui, c'est ça. Puis même après, même maintenant, je trouve que c'est difficile. En fait, tu ressens assez facilement la tension en te disant, bon là, tu t'es complètement suradapté parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ouais.
Mais après, de savoir qui tu es vraiment et oser montrer qui tu es vraiment, c'est difficile à définir aussi.
Ouais.
Moi, j'ai tendance à faire beaucoup de choses pour plaire aux gens.
Ouais.
Et du coup parfois tu te perds complètement en fait et t'as l'impression que oui c'est toi et non pas du tout.
C'est ton toi adapté.
Ouais, mais tu te rends pas forcément compte, tu vois. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je trouve que c'est c'est difficile de dire alors moi je sais que je suis comme ça et comme ouais. ça et je vais oser m'affirmer et allez quoi.
Surtout qu'on bouge, on change, donc ouais. On n'est pas on reste pas les mêmes. Mais toi est-ce que tu as eu ce moment où tu t'es dit maintenant ça suffit, genre j'en peux plus de cette suradaptation
Je sais pas. J'ai l'impression de me le dire tout le temps mais de pas non plus réussir à. Si, après, de toute façon, quand j'ai changé de travail, c'était ça. Hein. Même si ça s'est fait malgré moi, j'ai lancé le blog sur le sujet. Après, j'ai eu une période en fait où j'ai dû m'arrêter de travailler pour d'autres raisons. Et je me suis dit, bah, je vais m'occuper et je vais développer le blog. Je vais me former en illustration parce que j'adore ça. Je vais faire pas mal de choses là-dedans, lancer des petits projets et tout. Et là, je me suis rendu compte que en fait, j'étais beaucoup plus heureuse et que avant, je m'adaptais.
Ouais.
Et que là, j'osais être plus.
Ouais. Par exemple, tu sais, tu me demandais si je me connaissais ou tout ça. Le podcast, par exemple, il y a ce côté vulnérable, dans le ouais. sens où en fait, c'est sans filet. Et puis, j'interviewe parfois des gens que je connais pas, comme par exemple toi, c'est la première fois que je te rencontre et tout. Il y a vraiment cette prise de risque là où l'écrit, hein, pour les auditeurs. Donc j'ai fait deux zines par le passé. C'était écrit, tu peux éditer autant que tu veux,
ça.
Tant que tu l'as pas partagé en fait.
Ouais.
Et quand tu l'as partagé, tu peux même
encore l'éditer. Tu peux encore changer.
Tu vois. Et moi, je sais que, par exemple, dans mon boulot d'illustrateur, en fait, c'est vraiment un parallèle. Il y a souvent cette question du style, c'est quoi mon style, tu vois. Mais en fait, pour moi, ça accompagne ton cheminement. Et par exemple, moi, de base, mon style, il était très propre, très vectoriel, très, tout était parfait, suradapté,
ouais.
on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis humanisé. Je trouve ça presque triste, ça comme ça, parce que nous sommes humains par défaut. Mais et en fait, je volontairement laisse des erreurs, je laisse place à mon humanité. J'ai besoin qu'elles transparaissent. Et je pense que je fais un gros travail de déconstruction de moi-même pour laisser transparaître la vraie personne que je suis.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Et le podcast, c'est purement ça, c'est... Ouais, voilà. Et il y a ce côté aussi un petit peu dans ma culture personnelle, un côté plus punk rock. Et en fait, j'essaie de la... Alors, c'est drôle parce que parfois, les gens sont un peu étonnés parce que, voilà, on dirait pas, gros guillemets. Et pourtant, si vous saviez, tu vois... Et en fait, c'est ce sentiment de « si vous saviez » qui est terrible. Parce que moi, je le sais.
Ouais, mais les autres, non. Et après, on le sait dans le podcast.
Ouais, tu ouais, je le parle, j'en parle.
Moi, je le savais pas avant, et puis j'ai découvert dans le podcast, parce que t'en parles ouais, un peu. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, on.
C'est purement
on
une esthétique.
Plein de choses, je trouve ça génial.
Et je pense que je souhaite ça à tout le monde. Tu vois, que épouser vos spécificités.
Ouais.
Quelles qu'elles soient, qu'elles soient mentales, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient esthétiques, qu'elles soient dans votre humour, dans vos souffrances, dans vos blessures, dans vos découvertes. En fait, vous avez un puits inépuisable de
ah,
ressources.
Ouais. Et on peut faire plein de choses avec et c'est...
Ouais. Alors là, c'est terrible parce que mon cerveau va dans tous les sens.
Je connais ça.
Ouais. Ouais, en fait, j'ai découvert dernièrement que j'avais un besoin presque compulsif d'approbation. Ça m'a mené dans à faire volontairement des choses contre mon gré. Donc, j'ai décidé de... Je me retrouvais dans des situations pas possibles, quoi. Où à un moment donné, j'ai dit ça suffit.
Ouais, mais c'est ce qui m'arrive en ce moment.
C'est vrai?
Ouais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais ouais, là, depuis le mois de novembre, en fait, le blog donc était purement un loisir
ouais.
que je faisais sur mon temps libre, en plus de mon travail pas créatif. Et petit à petit, il a pris de l'ampleur. Moi, j'avais essayé de lancer d'autres projets, ça n'avait pas marché. Et en fait, c'est les lecteurs du blog qui m'ont encouragée à le sortir en livre, à poursuivre mon travail, qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont motivé à en faire mon métier en fait. Mmh. Et du coup, je me sens vraiment redevable aujourd'hui. Ça fait un an et demi que le livre est sorti et il fonctionne toujours aussi bien. Et en fait, aujourd'hui, je vis de ça. Je vis des ventes du livre, ce qui me permet de prendre le temps de travailler sur d'autres sujets pour les vulgariser, parce que ça, c'est du travail qui est pas payé. Tu vois, toute la phase d'enquête, de recherche. Même sur les réseaux sociaux, parce que je partage beaucoup mon travail sur Internet pour le développer en fait
bien
et le vraiment le en fait cheminer avec les gens qui sont concernés par ce sujet, parce que là je fais la même chose sur les maladies invisibles en fait, pas
ouais.
sur un autre compte, Et voilà, et du coup, je me sens tellement redevable et j'ai l'impression que je leur dois quelque chose à tous ces gens qui m'ont porté, et la proximité avec les lecteurs, c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Ouais. Sauf qu'en fait, j'ai tellement plongé pour satisfaire toutes leurs attentes, tous leurs besoins, que je me suis complètement perdue. Et en fait, là, j'ai des semaines entières où je fais des interventions en école sur ce sujet, des conférences sur ce sujet, alors que c'est pas mon métier et que je suis pas une experte de ce sujet-là.
Ouais.
Et je vulgarise avec le dessin, mais en fait, là, on me demande autre chose et j'ai peur de dire non, parce que j'ai peur qu'on m'aime plus, et tu vois, c'est très compliqué. Donc en fait, j'ai fait ça plein temps et je me suis complètement oubliée, plus du tout de créativité, plus d'idées pour me lever le matin, tu
vois. Ouais.
Et donc là, j'essaie de ralentir, de m'enfermer dans ma grotte. Donc j'ai refusé toutes les sollicitations qui sont sur purement sur ce sujet-là. Mmh. Et je pense que je vais avoir besoin de changer de sujet.
Bien
aussi,
sûr,
tu vois.
Ouais. Tu vas dans une nouvelle saison.
Ouais. J'ai 2020 et encore une année rayuriture. Et je termine ce sujet-là en 2020.
Ah oui, d'accord.
Et je passe à autre chose.
Bon, on a un peu exclu de la dernière
voilà.
année. En 2021, c'est fini, quoi.
Alors c'est fini, le blog sera toujours là, parce que c'est un... On me dit beaucoup que c'est un phare, tu vois,
ouais.
Et qu'en fait les gens tombent dessus au moment
ouais.
où ils en ont besoin. Et ce qui est lourd pour moi, c'est que j'ai beaucoup cheminé sur ce sujet-là, moi.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup, quand j'ai écrit le blog, puis le livre, j'étais à fond dedans. Ça a résonné par rapport à ce que je vivais à cet instant-là.
Ouais.
Et maintenant, j'ai fait un cheminement qui fait que quand je reçois tous ces messages de gens qui découvrent, c'est lourd pour moi.
Ouais.
Parce que ça me remet la tête dedans et qu'en fait, maintenant, j'ai plus envie de parler de ce sujet-là 24 heures sur 24.
C'est quoi ce dont tu as envie de parler maintenant ?
Et là, j'ai envie de sensibiliser sur les maladies invisibles.
Tu peux nous en parler
sur l'impact psychologique et social des maladies invisibles. J'aime beaucoup la psychologie.
Allez, rock'n'roll, c'est parti.
Et du coup, ouais, je fais petit à petit un petit virage là-dessus.
D'où les deux comptes Instagram.
Ouais, j'en ai beaucoup trop des comptes. J'ai Chloé Rayure sur Rayure et Rature, parce que du coup, comme c'est des sujets très spécifiques,
ouais.
Je me dis que bon, si on est intéressé par le haut potentiel, on va suivre un compte et par les maladies invisibles un autre, parce que c'est vraiment très différent. Et je viens tout juste de créer mon compte à mon nom, tu vois, d'assumer 4 ans après.
T'as 3 maintenant?
Ouais.
Ah ouais, waouh, ok. Je pense que j'en suis 2.
J'en ai même un 4e qui est caché depuis quelques années. Mais,
des photos de ton chien.
Non, mais c'est en fait, au tout départ, quand je voulais me reconvertir, je faisais des petites bandes dessinées avec des chats jaunes, toujours dedans, on voyait jamais sa tête. T'as vu? Et voilà. Et du coup, j'ai un compte là-dessus, ces petits dessins à l'aquarelle.
Ok. Ça va être trop mignon.
Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, ouais, les maladies invisibles, c'est toutes ces maladies qu'on voit pas, qui sont physiques, psychiques. En fait, la maladie en elle-même m'intéresse pas. C'est un peu dur de dire qu'elle m'intéresse pas, mais j'ai pas envie qu'on s'arrête sur la pathologie.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment sur le quotidien des personnes qui ont une pathologie, qu'elle soit chronique, qu'elle dure longtemps, que ce soit des séquelles d'une ancienne pathologie, que ce soit quelque chose, ouais, de très psychique ou très physique, mais sur de la fatigue, des douleurs, quelque chose qui se voit pas. En fait, tu vois pas que la personne est handicapée. Et du coup, tu te permets de faire des réflexions qui sont très blessantes pour la personne concernée. Et il y a beaucoup de réflexions comme « allez, fais un effort », qui viennent, qui sont pas du tout malveillantes, mais qui viennent vraiment du fait que on a tendance à ne pas croire ce qu'on voit pas.
Oui.
Et du coup, j'ai envie de sensibiliser là-dessus, pareil, sans colère et sans pathos. C'est pour ça que ça fait des années que j'ai envie d'en parler, mais que je commence tout juste à le lancer sur Internet et qui restera encore cette année sur Internet parce que j'ai encore un peu de chemin à faire là-dessus. Tu vois, pour vraiment mûrir ce projet-là et dépasser toute la colère et le pathos, parce que les gens m'envoient beaucoup de messages très très intenses, parce que c'est un sujet qui est très personnel, très intime et toujours qui déclenche des passions.
D'accord.
Donc c'est voilà un peu délicat. J'ai besoin de prendre aussi du recul par rapport à ça, parce que les messages que je reçois, c'est vraiment on me déverse le mal-être et la misère qu'on peut vivre quand on est malade. Donc c'est assez lourd. Et voilà, j'ai envie de sensibiliser sur ce quotidien, ce qu'on voit pas, pour que l'entourage puisse comprendre et que les malades, encore une fois, eux, se sentent beaucoup moins seuls.
C'est une continuité de...
En fait, c'est la même chose sur un autre sujet.
C'est ça.
Et c'est vraiment ce que j'aime faire, en fait, vulgariser et sensibiliser.
Ouais, c'est presque tes spécificités que tu as découvert dans ta précocité, ce besoin de vulgariser.
Ouais.
tu as traité ce sujet, ok, c'est bon, maintenant tu as incorporé les spécificités et tu les utilises désormais à bon escient pour un nouveau sujet. Et si je me trompe pas, ce sujet, il te concerne aussi parce que...
Ouais, il me concerne aussi et c'est pour ça que je me suis reconvertie en fait. Tu vois, c'est que quand j'ai commencé à dessiner, c'est parce que j'étais malade et que j'étais obligée de m'arrêter.
Ah oui.
Et en fait, je me suis dit, bon bah, en fait, on est d'accord que je vais pas rester sans rien faire dans mon lit, donc... Ouais. Je vais m'occuper en bon zèbre qui se respecte et voilà, je vais me mettre sur plein d'autres projets personnels et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le livre qui a fait que en fait ça a marché et que du coup je peux faire ça en métier aujourd'hui.
En fait c'est super intéressant, ça résonne beaucoup sur un sujet que j'aimerais traiter cette année, c'est tu as utilisé la créativité quelque part pour transcender ton mal-être, pour la traduire, pour l'extérioriser. Et moi, je crois, c'est vraiment une idée qui m'est de plus en plus chère au plus le temps passe, c'est genre, mais vos souffrances, vos difficultés, transcendez-les. Et comme t'as dit, on peut soit tomber dans le pathos, soit dans la colère.
Mm.
Ce qui serait compréhensible, parce qu'on est des êtres humains.
Et il y a forcément un moment hein, où t'as beaucoup de colère et beaucoup de pathos, et puis ça passe.
Ouais, et c'est ce moment où ça passe.
Ouais.
En fait, il y a besoin d'être reçu déjà, il y a besoin d'être entendu, compris. Moi, je sais que notamment pour faire une pirouette sur la précocité, quand j'ai fait le test et que on m'a expliqué et que ça a mis des mots sur un mal-être que je ressentais depuis toujours, en fait, ça permet d'avancer.
Mm.
Tu te dis ah ok, et du coup tu avances. Et à partir de là, quand t'as un petit peu les outils, les ingrédients qui sont toi, tu les as pas laissés de côté, genre non, je ne vois pas. Et en fait, tu les fais tiens, tu les comprends. Et au bout d'un certain temps, quand la douleur et la colère, aussi l'incompréhension, toutes ces choses passent, hop, tu te dis, bon alors, allons de l'avant.
Ouais.
On transcende, on est créatif. Et c'est ce que tu as fait toi.
Oui, et après c'est un besoin de reconnaissance aussi.
Yes.
Parce que tu as besoin d'être reconnu dans ta particularité ou besoin d'être reconnu dans ce que tu vis au quotidien et que les gens ont tendance à nier. Et ça, moi, c'est ce qui m'était très en colère. Et je le comprends très bien, la colère que les gens m'écrivent, en fait, sur Instagram, tu vois, sur Chloé Invisible, parce que je l'ai vécu à un moment donné et c'est très dur à recevoir, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir. Je sais que quand on a hyper mal, que on vomit tout le temps, que c'est hyper compliqué de se déplacer et que, en fait, tout le monde à côté nous dit « ça va, t'as pas l'air malade, donc fais un effort, allez, sors un peu, ça va te faire du bien. » Et c'est on attend que ça quoi de sortir de et quand on peut pas et c'est vraiment tu vois le besoin de reconnaissance et partir aussi du principe que peut-être parce que je suis un peu idéaliste mais vraiment partir du principe que que si quelqu'un te dit quelque chose c'est vrai. C'est tout bête. Ben en fait tu vois je vais te prendre un exemple tout bête mais dans le bus ou dans le métro. Quand tu demandes une place assise et qu'en fait t'as pas de fauteuil roulant, de canne, de béquille et que t'as pas l'air particulièrement malade, les gens se disent voilà. Et pareil quand tu te gares sur une place handicapée, t'as beau avoir le macaron, si tu sors pas avec de ta voiture avec un fauteuil roulant ou de canne ou une démarche un peu étrange, les gens t'insultent parce que on part du principe qu'en fait tu fraudes, tu arnaques. Et pas une seule fois on se dit mais en fait peut-être qu'elle a vraiment besoin de ça et que c'est pour ça qu'elle le fait tout simplement. Et je comprends pas moi pourquoi les gens partent pas du principe que de base les gens sont honnêtes.
Mais tu sais ce que tu décris là, moi le fait de passer ce test je l'ai même pas fait pour moi, je l'ai fait pour les autres, pour avoir une sorte de
certificat. Et regarde, c'est vrai
et c'est vrai, tu vois, je suis pas fou en fait.
Cette phrase,
je suis pas pareil. Fou mais en fait le nombre de fois que dans une dispute ou quand j'étais plus jeune j'étais genre mais je suis pas fou. J'ai toute ma tête en fait. Et où t'as l'impression, dû à ce décalage justement, je fais toujours des flashbacks entre le sujet et le présent. Hein.
On comprend, ça va.
Ouais, voilà. Ben voilà, quand tu sors de la voiture et que on te regarde genre, elle fraude. Non. Et je sais que moi aussi, pour mon fonctionnement, que je sais ne laisse parfois pas insensible. Maintenant, je peux presque, c'est presque une excuse, tu sais, genre oui, mais en fait. J'ai cette spécificité qui fait que je suis précoce et j'ai pas à m'en excuser. Après, c'est une de tes phrases, on peut s'adapter sans s'oublier. Moi, je trouve ça hyper puissant. Et puis, puis parfois c'est aux autres de s'adapter à toi, même s'ils comprennent pas, tu vois, comme la place de parking. Tu pourrais un peu développer cette phrase, on peut s'adapter
sans s'oublier. Oui, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens pour le blog, parce que maintenant je fais pas mal de témoignages, et à chaque fois les personnes me disaient, maintenant que je sais en fait comment je fonctionne, du coup je voilà, j'ose être moi-même, m'affirmer, et tant pis si si je suis pas adaptée, et tant pis. En fait, c'était vraiment aller dans l'extrême, dans le sens où je suis moi et les gens doivent m'accepter comme je suis, ce qui est vrai, mais il y a quand même des situations dans lesquelles il faut qu'on s'adapte, tout le monde en fait.
Bah oui.
Tout le monde est obligé de s'adapter tout le temps, il faut juste pas se perdre et pas s'oublier. Après, il faut pas non plus dire c'est aux autres de s'adapter, moi je suis comme ça et je reste comme ça, bah et oui, tout envoyer bouler tout le temps.
En société,
c'est
quoi.
C'est ça. Donc tout le monde doit s'adapter à un moment donné sans oublier son vrai self aussi.
Ouais. Ouais, pirouette. Moi je sais que mon zine, les deux zines là, on peut geeker sur Brené Brown.
Ouais.
et on reviendra sur les maladies invisibles aussi. Je crois que pour moi, même si ça venait bien avant ma découverte de ma précocité. C'est difficile de dire en public ma précocité,
ouais.
De la précocité, mais bon. Parce que j'ai fait le premier en 2017, et puis le second en 2018. Je pense que pour moi, c'était, tu sais, tu parles de quitter le mode de survie pour passer par la reconnaissance et puis l'acceptation. Pour moi, en fait, c'était mettre un petit peu mes doigts de pied dans l'eau, faire mes petits dessins et raconter mes petites histoires qui résonnent avec le livre de Brené Brown, Daring Greatly, ou Le pouvoir de la vulnérabilité.
Ouais.
En fait, j'étais mal à l'aise de me ramener en fait en disant genre ouais salut alors moi c'est Jérémy, je pense ci, je pense ça. Du coup de faire de manière vulnérable en me basant sur le travail de quelqu'un d'autre, je trouvais ça plus facile. Au final je parle de
oui, j'ai lu un peu et tu parles de toi, mais c'est génial parce que ça rebondit sur le livre.
Ouais.
Ça fait pas du tout prétentieux parce qu'on a toujours peur de ça.
Ah ouais, c'est terrible.
C'est pour ça que je te le dis, parce que je pense que t'as peur de...
Ah ouais.
On a tous peur de ça. Et non, pas du tout, en fait. Ça fait vraiment... tu racontes et c'est un juste mélange. Je fais ta publicité, t'as vu?
Ouais.
Un juste mélange entre le livre, ce qu'on apprend du livre, et comment ça résonne dans ta vie à toi.
Une sorte d'autobiographie.
Je l'ai lu ce matin, en fait, sur Internet.
Ah, ok. Sur Illustration Book Club.
Exactement.
.com.
Allez, tous sur ce site.
Voilà. Mais tu vois, pour moi, j'ai quitté la survie. Tu vois, cette illustration, bon, les auditeurs voient pas, mais tu vois, c'est ma forme un petit peu bizarroïde, et puis, c'est très bien, pas de problème. Quoi. Soit. Et, je suis un peu sorti de l'ombre, j'ai raconté des histoires parfois très personnelles, et je me suis rendu compte que, en fait, ça allait. Je pense que beaucoup de gens ont peur, pour partir du spécifique, moi, vers le plus générique, beaucoup de gens ont peur de partager, leurs histoires, ou leurs souffrances. Ou leur kiff, hein, si t'es fan, je sais pas moi, de bouffe brésilienne moléculaire des années 80, ben je sais pas, tu sais, genre vas-y à fond les ballons quoi. Et on s'assume pas, tu sais, on s'assume pas, on n'ose pas, on a peur qu'on va être jugé ou qu'on va être pris pour quelqu'un, pour qui il se prend, ou j'en sais rien, tu vois.
Ouais.
Et en fait, quand je me suis rendu compte que mon premier zine a été reçu, ça m'a permis de quitter ce mode de survie vers une première reconnaissance quoi. Mais pas forcément la reconnaissance des autres, genre juste je suis reconnu quoi.
Et puis tu l'as fait aussi. Mais et t'as pris le risque.
C'était vital quoi.
Tu vois, c'était vraiment la différence. Enfin, c'est vraiment la vulnérabilité en fait.
Ouais.
Et le fait de the courage to stand alone. Tu
yes, punaise. Mais toi aussi, c'est un peu la même démarche au final.
Oui, en fait, c'est ça, c'est que. T'as toujours, enfin en tout cas moi, je pense que toi aussi, mais on a toujours la peur du jugement et vraiment une peur maladive du jugement, de la critique. C'est horrible, moi là le blog, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en septembre il a eu pas mal de visibilité.
D'accord.
Et du coup je reçois 200 messages par semaine. Dans le tas, il y en a plein qui sont horribles. Et il y a des gens qui me disent justement, mais pour qui tu te prends, c'est hyper prétentieux d'écrire là-dessus. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis pas d'accord, et je suis tout le temps d'accord, moi, avec les gens qui sont pas d'accord. Enfin, je trouve ça génial, en fait, d'échanger.
Ouais.
Et là, la personne m'a répondu, puissiez-vous vous engager et rester sur le chemin de la vérité. Pam!
Et, c'est odieux.
Et voilà. Et je reçois beaucoup de messages comme ça. Et du coup, c'est horrible, et ça me mine, et ça me met à terre. Mais, je l'ai fait en fait et j'ai publié le livre et ouais, j'ai des critiques, après j'en ai publié un autre très différent, mais pareil, je sais que j'ai des critiques dessus, j'aurai des critiques dessus, positives, négatives, peu importe, ça me mettra toujours à terre, mais je l'ai fait quand même. Et finalement c'est ça, tu as osé prendre le risque aussi.
Mais comment tu fais Tu sais, on parle tout à l'heure de ce fameux sentiment d'approbation.
Ouais.
Moi, c'est maladif. Hein,
tu veux mon arme face à la critique?
Ouais, enfin, je le découvre à peine. C'est-à-dire que moi, avec le podcast, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui interagissent avec moi. Je n'ai pas 200 messages par semaine. T'as combien de messages négatifs dans les 200?
Pas beaucoup. Trois.
Ouais, mais c'est ces trois-là qui...
Mais bien sûr.
Et comment tu fais?
Et parfois, pendant une journée, je pleure sur mon canapé. Je sais pas si je peux dire ça dans un podcast. Mais c'est vrai, ça m'arrive. Parfois, ouais, je reçois un message comme ça. Et en fait, je pleure sur mon canapé toute la journée. Et j'arrive à rien faire. Et après, maintenant, ça va mieux. Hein, parce que j'ai trouvé une petite arme. Et qu'un ami m'a soufflé, qui est pas du tout dans le domaine créatif, mais entrepreneur. Et du coup, pas mal de critiques aussi. Et il me disait, moi, maintenant, quand je vois un avis négatif, je le dis à l'oral. Et en fait, maintenant, je les lis à voix haute. Je les crie à voix haute. Et après, c'est bon.
C'est comme si tu l'exorcisais.
Ouais, c'est ça. C'est bon, oh, bon, bah, ok. Il m'a dit que j'étais une connasse. Puis voilà, quoi. Tu vois. En fait, c'est vraiment des sujets qui déclenchent les passions. Donc, c'est vrai que j'ai des messages très, très... À la fois des gens qui me disent oh, merci, ça m'a sauvé la vie. Et qui sont trop forts aussi pour moi, tu vois. Trop lourds, où je me dis... Mais pas.
Et là, tu pleures de joie,
secours.
En fait.
Non, même pas. J'ai peur.
Ah bon?
Ah ouais, j'ai peur.
Attends, quand quelqu'un te dit merci, ça m'a sauvé la vie, t'as peur?
Ouais. Ben, parce que oui, c'est un peu fort quand même. T'as sauvé la vie, tu vois.
Oui, c'est...
C'est l'intensité. Et mais en même temps, je peux pas leur reprocher d'être intense. Je sais que toutes les personnes qui se reconnaissent dans le blog sont très intenses. Ah, donc, je peux pas leur reprocher ça. Mais c'est vrai que du coup, ben, moi, en fait, je suis aussi très sensible et très intense en face. Et en fait, je reçois tout ça. Et je culpabilise et je me dis, mais, c'était pas non plus, enfin, je sais pas, j'ai juste vulgarisé une information, en fait, transmis une information. C'est pas un truc exceptionnel.
Mais quelle information?
Ouais.
Mais pourquoi ça?
Ouais, je sais pas.
Je suis curieux, pourquoi ça te fait vraiment
bloqué.
Peur, en fait? Ouais.
Ah, ben, je sais pas, ça me bloque.
Moi, ça me donne des ailes, ça m'encourage, tu vois, je suis genre, ça me donne presque envie de pleurer, mais de reconnaissance, tu sais, de...
Ouais.
Enfin, vu qu'on, tu sais, il y a cette fameuse quête de sens. Alors moi, personnellement, je suis dans l'incapacité totale de faire quelque chose qui manque le sens, que ce soit professionnel ou dans ma vie privée ou quoi que ce soit. Et j'ai aussi besoin de faire quelque chose par passion. Et j'ai été, par le passé, j'étais graphiste pendant un an et demi en entreprise. Je me suis flétri. Je mourais à petit feu parce que, comme t'en parles sur le blog d'ailleurs, les 6 premiers mois, t'apprends plein de trucs, c'est génial. Et puis en fait, après, en fait, je me suis ennuyé. J'ai compris tout ce dont on attendait de moi. Il fallait pas que je sois créatif. Et en fait, c'est probablement une des périodes les plus sombres de ma vie. Je dirais même que quelque part, cet ennui professionnel a révélé cette précocité.
Ouais. Ce qui est souvent le cas.
Ah, ouais, bref, c'est un autre sujet. Et en fait, je me suis pris ça de plein fouet. En fait, tous les aspects un peu obsessionnels, compulsifs, vraiment handicapants. En fait, mon cerveau, il s'ennuyait puissance 10 000, donc, ça me fait bizarre d'en parler là, de ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que parfois les gens ils me disent aujourd'hui « Ouais, c'est super, t'as de la chance, tu fais un truc, t'es passionné. »
Ah ça, moi j'aime pas quand on me dit « j'ai de la chance ».
En fait, c'est la survie, en fait. Vous comprenez pas.
Et beaucoup de travail aussi. Hein.
Beaucoup
et beaucoup,
de
beaucoup de sacrifices quand même. Donc c'est vrai que moi ça m'énerve un peu quand on me dit ça. Bah en fait, quand mes anciens collègues ou copains d'école de commerce me disent « Ah toi, t'as de la chance de vivre de tes dessins et de l'écriture. » Attends, vous m'avez tous plombé quand je vous ai dit que je voulais faire ça et maintenant j'ai de la chance.
Non,
ça m'énerve.
T'es autrice de ta propre chance, en fait. Et j'en se rends pas compte aussi.
Après, j'ai eu de la chance, c'est sûr, dans le ouais, j'ai quand même eu de la chance.
En fait,
mais tu bosses aussi beaucoup, quoi.
Ouais.
Et mais après, moi, tu vois, je pleure de joie quand je reçois des messages. En fait, j'ai peur quand je reçois des messages disant vraiment, ça m'a sauvé la vie, vous pouvez pas imaginer, etc. Par contre, quand je reçois des messages qui me disent, j'ai trouvé ça génial et en fait du coup j'ai acheté un livre, je l'ai lu, je me suis tellement retrouvée dedans qu'après j'en ai acheté 5 et en fait je les ai offerts aux personnes de ma famille pour leur expliquer comment je fonctionne, pour qu'ils comprennent et ils ont toujours été très négatifs sur ce sujet-là, ils ont jamais voulu se renseigner et là il y a une couverture colorée, c'est gay en fait, donc ils l'ont ouvert et quand ils me disent et ça a ouvert le dialogue parce qu'en fait ça c'est un support et rien que de me laisser le livre sur le coin de la table quand tu dis bah voilà en fait moi je me reconnais, j'aimerais bien que tu le lises et après tu peux peut-être en parler parce que tu t'es retrouvé dans une illu et tout ça ça me fait vraiment pleurer de joie et je trouve ça génial quand on me dit ça. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire tu vois sur le livre et j'adore quand on m'envoie ça et ça me porte vraiment.
D'accord, c'est beau.
Voilà,
moi je trouve que ça me fait un peu peur peut-être de l'offrir à d'autres personnes. j'ai l'impression de m'imposer. C'est de dire, écoute, toutes ces années là, on s'est pas compris, ou parce qu'on est des proches ou quoi que ce soit, tu vois, parce que quelque part, comme tu sais, cette condition qui est la nôtre, elle est pas facile à vivre au quotidien, notamment pour nos proches. Et je pense que de mettre ce bouquin entre les mains, c'est presque dire, c'est la forcer quelque part à venir sur notre terrain, mais ils ont le droit de ne pas vouloir s'ils veulent. Et
ah oui, complètement. En fait, je pense que ceux qui m'envoient ça, il y en a qui l'offrent, mais plus...
Clin d'œil, allez, vas-y.
Oui, c'est ça. Et puis vraiment, je me suis reconnue là-dedans et ça me ferait plaisir que tu le lises, mais après, sans obligation, quoi.
Ouais.
Et il y en a beaucoup qui me disent, je l'ai laissé sur la table. Et ils attendent, donc tu imposes pas, tu le laisses là, et en fait petit à petit les gens vont se dire tiens, qu'est-ce que c'est, et par curiosité lire un chapitre ou regarder une image et reconnaître la personne et creuser un peu plus et lire peut-être deux chapitres, pas forcément le livre en entier, parfois juste regarder les dessins, et en fait c'est ça qui amorce le dialogue.
Oui. Moi, j'espère que cet épisode du podcast permettra d'amorcer un dialogue. Pas forcément pour moi, mais pour tout le monde, pour tous les auditeurs, d'oser parler de ses spécificités, de potentiellement une condition mentale, ou moi, j'aime bien parler de la grotte de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. d'aller faire face, en fait, aux parties les plus embarrassantes ou les moins reluisantes. Et d'ensuite, d'oser en parler avec son entourage. C'est ça, être vulnérable. Et en fait, c'est cette vulnérabilité qui permet la connexion aussi. En fait, on se rapproche. Quand on se regarde de loin, genre il ou elle, un peu chelou.
Ouais.
En fait, quand on crée des ponts, moi, mon boulot, c'est purement ça, c'est créer des ponts entre les gens. Bah, je pense que toi, c'est pareil. C'est de la vulgarisation en soi.
Mais j'adore ça.
Ouais. D'ailleurs, moi, je suis un flippé des mots. Beaucoup de gens se disent... Ah, mais oui, mais t'es très précis, t'es très nuancé, ça aide beaucoup, t'arrives à clarifier des idées super abstraites en quelque chose de simple. Alors déjà, ça me demande un effort. Un gros effort. Il me semble que ce côté flipper des mots, c'est peut-être un sentiment partagé, non? Enfin.
Ouais. Moi, ça me... Alors, je sais pas, moi, je suis flippé des mots à l'oral. À l'écrit, ça va. Mais c'est vrai qu'à l'oral, c'est compliqué. Et en fait, après, c'est qu'aussi je fais très attention au sens des mots.
Ah oui, moi, terrible.
Et du coup, je peux rester 20 minutes sur un truc juste parce qu'en fait, le mot employé est pas, je l'ai pas perçu de la même manière, ou je l'ai pas perçu vraiment au sens littéral. Et en fait, je vais partir très très loin parce que je vais être persuadée qu'en fait, si la personne a choisi ce mot-là, c'est que c'était le plus juste. Et pas forcément, en fait, ça peut être juste un mot comme un autre.
Ouais, je suis hyper littéral.
Ouais.
Je prends tout au pied de la lettre.
Aussi.
Très premier degré. Et je peux noter parfois, genre, ah oui, il fait du second degré ou c'est une blague. Mais je comprends juste que c'est du second degré. Mais je comprends pas, je comprends toujours pas la vanne.
Ah, c'est vrai. Alors moi, je comprends bien,
je comprends
second,
parfois,
troisième, 15 000e degré. Par contre, je comprends pas les implicites.
Ah, tu peux décrire ça? Alors c'est purement,
alors,
geek, là, mais,
Vraiment les blagues au second degré, je trouve ça très très drôle, et j'adore le second degré, j'adore l'humour noir. Vraiment, j'adore ça.
Ouais.
Mais l'implicite, quand en fait on essaye de te faire comprendre quelque chose, mais sans l'exprimer clairement.
Ouais, directement.
Mais moi, je comprends pas.
Ouais.
Vraiment. Et après, on te le reproche, en fait, on te dit mais.
Enfin.
Bah, quand même, voilà.
Maman, c'est pas clair,
non. Et donc, bah non, en fait, fallait me le dire parce que vraiment, je l'aurais fait. Mais là, ok.
Moi, je suis le champion des questions. Ma femme me dit tout le temps, quand notre fils grandira, les questions, il ira à toi. Parce que moi, je suis monsieur pourquoi. Et en fait, ça ne me dérange jamais. Genre, pourquoi? J'adore.
Ouais,
genre, on peut aller aussi profondément que vous voulez. Mais je sais que c'est fatigant aussi parce que...
Ah oui, c'est épuisant pour les autres.
Une précision monumentale.
Ouais.
Et souvent que le degré de complexité va vite être atteint pour quelqu'un, genre, l'âge sature, que moi, je suis juste dans les starting blocks, en fait. Et le sens aussi, c'est genre, non, mais tu m'as dit ça, donc qu'est-ce que tu voulais dire?
C'est ça.
je voulais dire ça. Et je pense, tu vois, que l'illustration, pour moi, c'est une sorte d'échappatoire. Parce que je trouve que les mots sont hyper chargés. Suffit de voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un met un mot de travers, la déferlante
de commentaires.
Voilà.
Moi, ça m'arrive beaucoup, ça, sur Chloé Invisible.
OK.
Parce que c'est très... spécifique parfois à chaque pathologie, et en fait je sensibilise en général, mais je me base aussi sur les ressentis que j'ai et sur des symptômes que j'ai. Et parfois, j'utilise un mot qui est pas forcément le bon pour d'autres, et d'autres vont pas se retrouver dedans. Et en fait, là, j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires. Oui, enfin bon, c'est quand même un peu... Et ouais.
Je t'explique, en fait, le vrai terme. Non.
Non, mais c'est que ça parle différemment chez chaque personne. Et donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je le fais vivre sur les réseaux sociaux pour l'instant, parce que j'ai pas encore trouvé exactement le bon ton.
Ouais. Bah, toi et moi, je dirais que quelque part, j'aime même cette métaphore du stand-up. C'est-à-dire, t'es sur scène, sur les réseaux sociaux, par exemple, sur ton blog, ou moi sur le podcast. En fait, on teste, pour utiliser la métaphore, des vannes en public.
Ouais.
On voit si ça marche.
Complètement
ou pas.
Ça.
Et ensuite, on corrige derrière, on se dit, ah non, mais ça, en fait, ça n'a pas marché.
Ouais.
J'ai pas utilisé la bonne tonalité, j'ai pas utilisé le bon terme. Je corrige derrière. Ah là, le public rigole. Même si nous, notre
ouais.
c'est pas forcément.
Après, faut, c'est ça. Après, il faut faire attention. Ça m'est arrivé à un moment donné où je recevais pas mal de critiques sur le blog, mais j'avais l'impression d'en recevoir plus parce que j'avais plus de messages, en fait. Et du coup, je me disais, mais peut-être que je fais n'importe quoi, qu'effectivement, c'est pas bien, je vais faire différemment pour éviter la critique. Et tu vois, c'est la, on en reparlera peut-être, mais la différence entre le perfectionnisme et la recherche d'exigence.
Ouais.
Toujours de notre amie Madame Brown.
Ouais.
Tu vois. Et en fait, je, pour éviter toute critique, j'essayais de faire un article le plus parfait possible.
Oh,
et en fait, j'ai des gens, des lecteurs qui me suivent depuis super longtemps, depuis le début, et qui m'ont envoyé des messages en me disant « Écoute, ton dernier article, il est bien, mais ça se voit trop que t'essayes de satisfaire tout le monde.
Ouais.
Et il est pas spontané. »
C'est impossible.
Et juste, mais merci pour ce message, en fait, parce que effectivement, à trop vouloir adapter tes vannes au public, en gros,
c'est
plus drôle.
C'est
plus ton humour à toi, en fait.
Ouais,
c'est ça. Et voilà, donc c'est trouver le juste milieu, en fait.
Oui, exister,
à la fois, et on est dans les gens. Ouais, exactement.
Audience. Mais quelque part, on peut servir notre audience en étant pleinement nous-mêmes.
C'est ça, ce qu'ils aiment, c'est la spontanéité. Mais... C'est aussi ça qui fait que ça fonctionne. Quand, au début, j'ai eu des grosses périodes de doutes. comme...
Normal.
et j'osais pas en parler. Donc, j'en parlais jamais sur le blog. Je postais plus rien pendant 3 mois. Et j'avais plein de messages disant ça va t'es morte, parce qu'ils savaient que j'étais malade, alors ils s'inquiétaient de ma santé. Plus ils disaient en fait ça va, c'est juste que je doute. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler de ces doutes là j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient ce même cheminement là et tu vois, sur le sujet du haut potentiel, où je racontais qu'hier j'avais une interview, et en fait en milieu de l'interview je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie de répondre à ces questions.
C'est intéressant, c'est une petite épiphanie en live, quoi.
Ouais, et en fait je me suis dit ce sujet, j'ai l'impression d'avoir fait le tour,
ouais.
et d'en avoir tellement parlé que moi je suis passée à autre chose. Les gens qui le découvrent non, et je suis en décalage avec eux et je me sens imposteur
à nouveau.
Et en fait, j'en ai fait part aussi dans un article de blog. Et j'ai d'autres personnes qui sont elles plutôt des psychologues et qui ont beaucoup écrit sur ce sujet et qui m'ont dit mais moi aussi. Et en fait, quand tu regardes leur travail, c'est vrai que pendant 5 ans, elles ont publié des livres là-dessus, elles ont fait des conférences, sensibilisé, et ensuite elles ont ressenti le besoin de passer à autre chose. Et tu vois, je me sentais vraiment seule et pas normale de devoir encore passer à un autre sujet.
Ouais, non.
Et non, en fait, c'est commun, c'est normal. Au bout d'un moment, tu satures du
public. Tu ne trahis pas ton public.
Non.
Tu changes. Mais tu sais, il y a entre guillemets, c'est comme les groupes de musique. Tu sais, il y a les groupes de musique, on veut que d'album en album, ils fassent toujours la même chose.
Ouais.
Et s'ils font quelque chose d'autre, on les boude.
Ouais.
Là, c'est en réalité, ça. Mais ils ont besoin d'exister.
Oui.
Moi, certains de mes groupes préférés, je les aime d'autant plus parce que je vois que quelque part, ils se permettent de changer, d'évoluer, autant sur le fond que sur la forme. Et moi, ce qui me passionne, c'est une spécificité, je crois, c'est la recherche plus que le résultat, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et de les voir un petit peu tâtonner, chercher et tout, ça me fait trop kiffer. Que genre, filez-moi un album aussi bon que le précédent, faites toujours la même chose. Ce n'est pas intéressant,
ouais.
du moins pour moi. C'est pas intéressant.
C'est ça.
Et je pense qu'on est obligé, on a l'autorisation, surtout que toi, c'est bon, t'as donné. Enfin, je veux dire, t'as fait quand même pas mal d'années sur ce sujet, t'as donné ta personne, plein de choses bénévoles, enfin, plein de choses, voilà. À un moment donné, screw it, tu vois.
Ouais. Et puis surtout, je suis pas une professionnelle de la douance, du haut potentiel. Et ça me gêne aujourd'hui d'être considéré comme ça, parce que là tout dans les 200 messages il y aura la moitié c'est des gens qui me demandent des conseils, Et oui. Je suis pas formée pour ça. Et il y en a même, tu vois, la semaine dernière, qui m'a demandé si je pouvais aller déjeuner chez eux un dimanche midi, parce qu'ils ont deux enfants précoces et ils voudraient que je puisse les aider, discuter avec eux. Et en fait, non, je suis pas psychologue et je peux pas. Voilà, c'est ça. Et comme je me sens redevable, c'est compliqué. Mais là, j'y arrive parce que je me suis vraiment trop perdue. Et c'est un projet qui me passionne. J'ai beaucoup donné et je vais encore beaucoup donner cette année. Mais j'ai plus envie. Maintenant que j'en ai fait mon métier, de l'écriture, de l'illustration et de la recherche aussi, parce que c'est quand même, c'est un peu journalistique, c'est un peu reportage, tu vois, des enquêtes très longues dans des associations de patients là pour l'autre sujet, et ensuite vulgariser. Et j'aime beaucoup ça, et j'ai plus envie maintenant d'être considérée comme ça, comme artiste, plus que comme spécialiste du haut potentiel, tu vois, blogueuse du haut potentiel. C'est compliqué.
Ouais, c'est parce que auteur. Auteur, c'est pas spécialiste. Auteur, non. C'est juste, tu développes une voix d'auteur sur un certain sujet ou sur certains sujets avec S.
Ouais.
Parce que ce que tu fais, là, en t'écoutant, je me rends compte que, enfin, c'est déjà quelque chose auquel je pensais, mais c'est un peu, à terme, quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, pouvoir approfondir mes sujets et te payer pour.
Ouais.
Mais je dirais que ce podcast, c'est notamment, c'est presque les prémices de ça, c'est-à-dire, quelle est l'équation économique,
ouais. Ah bah
financière,
oui, parce que ça rentre forcément en
humaine,
compte.
Artistique, pour réussir cet équilibre. Je pense que beaucoup de gens recherchent ça au final. Et comment ça fonctionne? Le truc, c'est que c'est pas un claquement de doigts.
Ouais.
Ça prend du temps, des erreurs, on se vaut, on recommence.
Ouais.
Et ça me fait rêver, ce que tu fais. Enfin, je veux dire, dans le sens...
Ouais, ben là, tu
vis de quelque chose qui te passionne.
C'est ça.
C'est ouf.
Et c'est génial. Et là, j'ai quand même aussi eu de la chance, en fait. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu de la chance aussi. Et en fait, tu vois, le blog, je l'ai lancé et pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé bénévolement dessus.
Bah oui.
Parce que c'est un blog. Tu vois, donc j'ai toujours refusé de sponsoriser quoi que ce soit. Il y a aucune publicité sur le blog. Là-dessus, je suis très...
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Ça fait partie de tes valeurs.
Ah ouais. Je supporte pas qu'il y ait un pop-up de chaussures de sport là qui est au milieu de ton article. Donc j'ai vraiment toujours voulu que ce soit gratuit, qu'il y ait aucune publicité, rien du tout. Donc je faisais ça sur mon temps libre, je faisais mes recherches et je travaillais à côté pour payer mes factures. Et en fait,
un boulot
maintenant... Bah j'avais mon travail en entreprise et après je faisais des contrats faisais des contrats freelance du coup quand j'étais malade en fait.
Ouais.
Et comme ça je pouvais travailler de mon lit. J'ai fait des contrats dans la traduction, j'ai fait des contrats dans le marketing, la stratégie d'entreprise.
Okay.
Enfin vraiment dans tout ce que je pouvais trouver, tu vois. Dans l'illustration aussi, là je me disais mais pourquoi vous me demandez à moi, je suis pas pro, c'est horrible, et en fait j'ai pas aimé ça.
OK.
J'ai pas trop aimé les commandes. Et bref, donc je prenais vraiment tous les contrats que je pouvais pour payer mes factures et voir ce que je pouvais faire aussi, puis tester des trucs. Et le blog se développait et à un moment donné, j'ai dû faire le choix de faire un livre, sauf que j'ai voulu le faire en auto-édition parce que je suis très attachée à l'indépendance.
Bien donc.
Et ça, c'est c'était, je pense, le meilleur choix que j'ai fait parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux en vivre.
Avec le bouquin.
Ouais. Ouais.
Des royalties, des ventes.
Alors, c'est pas des royalties, du coup, parce qu'en fait, c'est moi l'éditeur.
Oui,
donc, par contre, j'ai fait un Kickstarter pour le premier tirage.
Ouais.
Enfin, Ulule, c'était. Donc, j'ai imprimé 2000 livres. Mmh. Et après, je refais les tirages avec les ventes, enfin, le bénéfice des ventes. Et sauf qu'en fait, je gère tout. Donc, c'est-à-dire que je gère la distribution, la diffusion, la production, j'ai le local. Donc, tous les jours, je prépare les commandes. Là, j'ai une personne qui vient m'aider 2 fois par semaine pour préparer les commandes parce que je m'en sors plus. Il y a le suivi client, la facturation. Donc, en fait, il y a c'est pas que auteur et dessinatrice et je mène ma journée comme je veux. En fait,
aussi,
c'est ça. Là-dessus, l'école de commerce me sert, tu vois.
Ah oui,
heureusement que j'ai fait ça parce que je fais les relations presse, les communiqués de presse, la distribution avec les librairies en ligne parce que la plupart ça passe par ma boutique en ligne et c'est ce qui fait que j'en vis parce que par les librairies je vends à perte malheureusement.
Ouais.
Mais c'est un gros travail administratif et de gestion.
Et j'imagine que c'est pas très fun.
Et c'est pas très fun, mais en même temps, j'adore ce côté artisanal. J'adore écrire les adresses des gens sur les colis, tu vois. Ah ouais, j'adore ça. Quand il y a une adresse rigolote, je mets un petit timbre Batman.
voilà. Oh, j'ai pas eu le timbre Batman, donc mon adresse n'était pas rigolote.
Non, mais j'ai des adresses très très drôles. J'ai Hakuna Matata. maison au fond de l'impasse. Ouais, ouais, très 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 rigolo.
C'est drôle. Enfin, ah ouais, mais j'ignorais que tu.
Donc
que
je
tu
fais vraiment tout ce côté-là.
Parce que moi, je fais un petit peu, tu sais, avec mes zines ou mes prints, mais c'est une infime partie de.
Non, là, c'est la moitié de ma semaine.
Ah ouais.
Mais en même temps, c'est ce qui fait que du coup, j'ai les ventes qui tombent et du coup, les sous qui tombent et je fais la gestion. Mais à côté, je peux aussi développer des projets où là, personne me paye pour faire mes recherches. Et ça se trouve, ça donnera rien. Tu vois, peut-être qu'en fait, le truc sur les... je fais que de dire truc. Pardon.
Recherche.
Ouais, en fait, le livre sur les maladies invisibles, peut-être qu'il sortira pas parce que j'en serai pas satisfaite. Peut-être qu'il plaira pas. Peut-être que économiquement, ce sera un flop. Tu vois, j'en sais rien.
En quelque sorte, on pourrait presque dire tu fais un peu comme Brené Brown dans le sens où elle est. C'est sociologue,
Elle est chercheuse, ouais, en sociologie, je crois. Ouais.
Parce que moi, ça me fascine. Sciences sociales. Je suis fasciné.
Ah, moi aussi. Ah ouais.
Et moi, je sais que mon truc, notamment, c'est la communication. Mm. C'est quelque chose qui m'obsède presque. Et en fait, dans mon travail, même quand on observe mes illustrations, il y a quasi toujours une présence humaine. Ça ne m'intéresse strictement pas de dessiner des chats, des bâtiments, des bateaux, enfin, j'en sais rien, tu vois. Moi, il faut qu'il y ait une présence humaine. Bref, tout ça pour dire que l'être humain me fascine. Et si je pouvais, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, en tant que podcasteur, c'est ce qu'on fait là quelque part, l'étude des humains que j'interviewe.
Mais si, c'est ça. Ça.
Ouais, et c'est un peu ce que tu fais au final.
Ouais. Bah en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à le définir, c'est que je me sens pas vraiment auteur dessinatrice, encore moins illustratrice, parce que dans ma tête, illustratrice, c'est vraiment dessiner pour la communication, la publicité, et ça, c'est vrai que je fais pas. Je fais des livres. J'illustre des livres pour d'autres gens, mais quand c'est vraiment de la vulgarisation dans le domaine de la science, de la santé ou de la psychologie, tu vois, j'adore ça. J'ai découvert une passion pour les cellules, les entérocytes et j'ai trouvé ça génial. Bref, petit aparté. Et c'est un mélange de recherche, et c'est juste que au lieu de faire une thèse ou des publications scientifiques, ben je fais des livres grand public illustrés. Mais c'est un peu de ça, un peu de reportage aussi, parce que finalement, tu vois, sur les maladies invisibles, je vais interviewer beaucoup de patients pour comprendre aussi comment eux, ils le vivent au quotidien, quelle que soit leur pathologie, comment les soignants le comprennent, le vivent, comment l'entourage aussi, les aidants, quel impact ça a sur eux, sur leur vie au quotidien. Donc c'est un peu du reportage, et c'est juste que le moyen d'expression que j'ai trouvé pour faire part de ces recherches et transmettre le résultat de ces recherches ou le cheminement, c'est le dessin et l'écriture.
Mais je pense presque que ça te correspond probablement mieux, parce que si ça devait être une thèse,
un truc supra sérieux,
en fait, ce serait bloquant.
Oui, et puis en plus, je serais pas libre.
Ouais, tu serais pas libre.
Je crois que j'ai un vrai problème avec ça, et parfois, ça me fait peur sur l'avenir. Hein,
attends,
parce que je me dis,
développer.
J'ai vraiment un très très fort besoin d'indépendance et de liberté.
Ouais.
Et là, tu vois, je vois une éditrice demain.
Ok.
Et sur un projet, et il y en a plusieurs qui voulaient récupérer le projet sur les maladies invisibles. Et j'ai l'impression de... Tout le monde autour de moi me dit « Mais c'est bien, parce que c'est prestigieux, tu vois, de passer par un éditeur. » Et en fait, moi, y a un projet que j'aimerais faire en maison d'édition parce que c'est de la bande dessinée et que j'ai besoin d'être accompagnée et que j'ai envie d'avoir cette relation avec un, tu vois, éditorial. Mais sur le reste, j'ai envie d'être tellement libre que ça me bloque. Ouais. Et je me dis « Mais est-ce que je vais pouvoir rester libre comme ça toute ma vie ?» Je sais pas.
Ouais.
Tu vois, ça m'angoisse un peu.
Ah mais moi j'ai ce besoin intrinsèque de liberté aussi, c'est pour ça que je suis freelance, c'est pour ça que quand je me suis lancé en 2013 en total autodidacte, je ne conseille pas ça à tout le monde, dans le sens où souvent si vous voulez faire par exemple prenons illustrateur et que vous avez un job à plein temps, peut-être que vous pouvez y aller petit à petit, vous mettre à mi-temps, enfin tu sais équilibrer le truc, mais moi en fait j'ai ce besoin d'entièreté totale, de liberté totale, je préfère en fait me vautrer tout seul dans mon coin et réapprendre et monter petit à petit et apprendre, que la sécurité presque c'est un danger pour moi en fait. J'ai besoin, la non sécurité c'est le prix à payer de la liberté. Moi je dis souvent que si je me vautre c'est de ma faute, et si je réussis ben c'est pour moi et je suis super content.
Mais ça, c'est un bon état d'esprit.
C'est responsabilisant, en fait.
Ouais.
Parce que si c'est de ta faute, ben, tu corriges, hein. C'est comme la fameuse phrase, là, que t'as mis en préambule, là, nationalement de la vie. C'est quoi, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends.
C'est ça.
Et si je réussis quelque chose, mais en fait, ça me rend tellement, reconnaissant et presque, ému, parce que je sais le travail que j'ai mis derrière pour y arriver. Mais bon, tout ça pour dire, besoin de liberté.
Très, très fort. Et...
C'est terrible. Ouais. C'est pas pour tout le monde, je crois.
Non. Tu vois, là, j'ai une chronique mensuelle dans un magazine qui sort aujourd'hui, je crois, qui est tout nouveau sur les entrepreneurs. Du coup, bon, je sais pas, ça dépendra de la vie du magazine. Hein. Peut-être j'en ferai que deux, peut-être j'en ferai 20, j'en sais rien. Mais je suis très excitée de le faire. J'ai hâte et à chaque fois, je suis super, vraiment très enthousiaste à l'idée de faire ces chroniques. J'ai plein d'idées et tout. Et puis, en même temps, le fait de savoir que je dois en rendre une par mois, eh ben, ça me bloque un peu.
Ah ouais?
Ouais.
Mais c'est la contrainte.
Je sais pas.
Qui permet d'être créatif, quoi.
Ouais, je sais pas.
Ah, moi, ça m'aide. Tu vois, par exemple, je pense beaucoup pour la presse. La presse.
Ah oui, c'est des deadlines très serrées.
Alors moi, ça me.
Ouais. Pas moi.
Tu vois, j'ai besoin d'aller vite et tout. Et, moi, si j'ai des sortes de deadlines infinies, je suis tétanisé. Je m'ennuie. Je suis genre. Toi, c'est le contraire.
Ouais, je crois. Un peu. J'ai du mal à définir ça. Parce qu'en même temps, je vais laisser traîner si j'ai pas trop de deadline. Et puis en même temps, j'y arrive, tu vois, quand on me dit fais un truc pour après-demain, j'y arrive.
Ouais.
Mais ouais, ça me...
Est-ce que tu pourrais me parler de ton rapport à l'échec? Parce que je pense que c'est un sujet qui...
Aïe.
qui intéresse tout le monde. Enfin, c'est parce on parle un peu de ces sujets qui nous concernent, mais au final, accepter ses spécificités, la peur de l'échec, oser, toutes ces choses, c'est partagé par tout le monde. Du coup, ouais, toi.
C'est compliqué. J'ai encore beaucoup de mal. Alors, je sais la théorie, tu vois. Et puis, je suis la première à faire un article sur la peur de l'échec. Pareil, j'ai fait un livre sur l'auto-édition. Et il y a toute une partie psychologie dedans, évidemment. Sur, justement, le rapport à l'échec. La différence entre un échec commercial d'un livre, parce que ça peut arriver, et le fait de toi être un raté, tu vois.
Ouais, c'est pas pareil.
Ben non, sauf qu'en fait, moi, je l'explique aux gens, mais je suis incapable de me l'appliquer à moi-même. Donc, j'ai encore un peu de mal. C'est vrai que quand il y a quelque chose qui marche pas ou j'ai très, très peur de l'échec, et souvent, je vais avoir tendance à arrêter de faire... à arrêter un projet juste par peur, en fait, de le rater. Et c'est pas bien. Ne faites pas ça. Mais je progresse, mais c'est vrai que je suis pas du tout encore passée à l'étape de... oh, c'est pas grave, je vais rebondir, tout va bien, non.
Mais tu serais la première à dire que les succès sont bâtis sur des échecs.
Bien sûr. J'ai une super illustration là-dessus. Il y a, c'est une petite fille, en fait, qui veut voir par-dessus un mur, en fait, qui veut passer par-dessus un mur, et en fait, il y a un parpaing avec marqué échec numéro 1, échec numéro 2, enfin, voilà, plein de parpaings. Et comme elle est petite, bah, du coup, elle grimpe sur tous les parpaings pour réussir à passer le mur. Voilà.
En fait, comment passer par au-dessus du parpaing? Ce podcast, c'est notamment ça. C'est, tu vois, mon but avec ce podcast, c'est pas que chacun qu'on raconte nos réussites. C'est juste le résultat, ça. Mais je pense que ce qui passionne les gens dans n'importe quel domaine de la vie,
c'est des échecs.
On a tous des échecs, on a tous des murs en face de nous. Quelle est l'échelle qui nous permettra de passer par-dessus? Et quand on déconstruit ça, c'est presque un objet de fascination, mais tout le monde n'ose pas. Enfin, ça fait peur.
C'est difficile, ouais.
Ça fait peur, c'est difficile.
Ouais. Mais tu vois, oui, en fait, je suis au courant et maintenant, et je sais que j'ai dépassé plein d'échecs et que vraiment, c'est grâce aux échecs que j'ai eus que j'en suis là aujourd'hui. Mais pour autant, quand une situation se présente encore maintenant, ma première réaction, c'est, oula,
ça fait peur.
Ouais, j'ai peur et du coup, je préférais ne pas y aller plutôt que de rater. Et puis après, je me lance des... En fait, ah oui, si, ma stratégie pour dépasser l'échec. Et là, plutôt la peur de l'échec. Tu vois, pour le livre, il y avait beaucoup de lecteurs du blog qui me demandaient si je pouvais le lire en livre, parce que vraiment, le contenu sur Internet commençait à être très très long, tu vois. Et j'avais hyper peur de rater et de faire quelque chose de très moche, un livre inutile. Et du coup, je m'étais dit, non mais si je le dis pas publiquement, je vais jamais le faire. Et en fait, pour éviter cette peur de l'échec, je me suis dit, alors... Qu'est-ce qu'il y a de pire que l'échec pour moi? C'est la honte. La honte de pas honorer un engagement que j'ai pris publiquement. Et donc, j'ai fait un message sur Facebook, sur la page Facebook. J'avais pas Instagram à l'époque. Et j'écrivais, bah voilà, je vais faire un livre. J'expliquais mon projet aux gens. J'avais même donné une date. Et comme ça, je me disais, bah voilà, en fait, maintenant, je suis obligée de le faire. Parce que sinon, c'est trop la honte.
Ouais. T'as fait un pacte avec toi-même, ouais, en public.
C'est ça.
Et tu es redevable.
Et c'est ce qui fait que j'ai sorti le livre. Parce que vraiment, je pense que j'ai failli tout jeter la veille, en fait, de la campagne de financement.
Ah ouais.
Parce que j'ai eu un gros doute. Je me suis dit que c'était pourri, que ça servirait jamais à personne, etc. Et j'ai failli tout jeter. Je me suis dit, non, parce que si je le sors pas, mais quelle honte de devoir dire publiquement, non, en fait, je le fais pas. Tu vois? Alors que j'ai pris mon engagement.
Mais c'est drôle parce que avoir peur ou avoir des doutes, c'est souvent vu comme quelque chose de néfaste. Alors qu'en réalité, souvent quand les gens me parlent de ça, je dis, mais en fait, c'est bon signe.
C'est
ça
moteur.
Veut dire qu'en fait, ce sujet, ce projet, j'ai envie de dire en anglais, you care. Je sais pas comment, je fais des anglicismes, c'est terrible. C'est tellement important pour toi que t'as peur, que tu doutes. Si tu t'en fichais, t'aurais pas peur.
Parce que ouais, c'est ça.
J'en ai rien à battre. Ouais. Et, t'as raison. Je pense que s'engager publiquement. Moi, par exemple, ce podcast, c'est un épisode toutes les deux semaines. C'est pareil.
Ouais.
Parfois, il y a des semaines où c'est un peu la course, des fois où je suis bien en avance et tout, mais, j'ai pas le choix, en fait. Et je pense que quelque part, de se forcer de ne pas avoir le choix, c'est les contraintes, c'est la peur de la feuille blanche, la page blanche. Et si on te dit, tu peux utiliser que du rouge et du bleu, soudainement, l'étincelle naît.
Ouais.
Et
Oui, c'est après, c'est le fait d'être très consciencieux aussi, en fait. Ouais. Et moi, ça m'aide à sortir ce qui me fait peur, parce que je sais que je suis très consciencieuse et que je veux vraiment que ce soit fait. Tu vois, je voulais faire... en fait, comme j'ai publié le livre et que ça m'a permis de lancer d'autres projets, etc., j'ai beaucoup d'auteurs qui m'ont envoyé des messages pour savoir comment faire, comment sortir un livre en auto-édition. Et je leur répondais par téléphone, je prenais 2-3 heures pour expliquer tout. Déjà, est-ce que l'auto-édition, c'est parce que c'est pas la solution à tout, et c'est pas forcément la meilleure méthode pour ton projet. Donc je leur expliquais tout ce que ça impliquait, ensuite comment faire au niveau légal, au niveau administratif, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'y arrive plus, donc je vais faire un article de blog. Et le fait d'être très consciencieuse fait que mon article de blog a commencé à être très très long et maintenant il fait 272 pages et j'ai même fait des templates pour aider les gens à calculer leur prix de vente, pour pas faire d'erreur, pour rien oublier. Et je suis allée beaucoup trop loin, mais pareil, j'ai failli ne pas le faire parce que je me disais, mais en fait, vu que les lois changent très souvent, peut-être que ça sera plus d'actualité. Et puis, je me suis dit, non, j'ai vraiment besoin de faire ça je vais.
C'est ton plaisir de l'explication, ça aussi.
Ah ouais, j'ai adoré aussi expliquer en dessin la différence, qu'est-ce que tu déclares selon ton statut, etc. Enfin, je trouve ça très drôle. Mais je me suis découvert vraiment une passion pour sensibiliser et vulgariser l'info avec des petits dessins.
Ouais. moi, le podcast, c'est, j'ai l'impression que je dis tout le temps pareil. Hein. Je suis vraiment désolé, je dis tout le temps. Mais tu sais, c'est les choses que j'apprends.
Moi,
j'ai toujours été un peu journaliste aussi. Par le passé, il m'est arrivé de faire des interviews écrites pour un collectif d'artistes ou pour où j'étais toujours du genre un peu genre tiens regarde ce documentaire, lis ce livre, écoute ce truc, tu vois. Et en fait, j'étais frustré. Évidemment, en quelque sorte, tu t'imposes à moitié quelque part. Du moins, c'est comme ça que je le percevais. Et je me dis, mais en fait, c'est super cool, ces trucs-là. Tu vois, c'est chaud. Mais en fait, c'était bon pour moi. C'était pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, maintenant, je me dis que le podcast, j'enregistre les choses qui me paraissent intéressantes. Libre aux gens d'écouter ou pas.
C'est ça. Tu donnes des informations. Après, est-ce que ça résonne en eux? Pas forcément. Mais il y a forcément une personne qui ça fera écho et ça l'aidera.
Il y a ce côté journaliste.
Ouais.
Tu vois, d'expliquer. Enfin, c'est même pas moi qui explique. Enfin, parfois oui, je donne la parole aux autres. C'est ce genre.
Oui, mais en fait, la discussion fait que ça explique.
Ouais. C'est je suis passionné d'explications, c'est bizarre à dire.
Mais... Non, mais je comprends très bien parce que on en parlait tout à l'heure aussi dans les dessins que tu fais toi et ce que je fais moi aussi. En fait, c'est l'idée qui prime. Alors toi, je sais que l'esthétique est beaucoup plus travaillée que moi. Je sais pas si ça fait pareil du coup pour toi, mais quand j'ai trouvé vraiment, je vais faire plein de croquis et quand j'ai trouvé vraiment la façon de transmettre l'idée et du coup j'ai l'idée du dessin. Eh ben, j'ai pas du tout envie de passer du temps à peaufiner les mains, tu vois. Je sais pas faire les mains, j'arrive pas à faire les mains, c'est horrible. Et en fait, j'ai pas du tout, je suis, pas assez.
Et c'est important d'accepter.
Que... Oui, alors après, j'essaie de travailler quand même là-dessus pour améliorer les dessins parce que je, voilà.
Non, oui, oui.
Mais oui, mais après, faut aussi accepter que c'est le message en premier pour moi.
Oui, mais si tu pousses quelque part le truc, c'est-à-dire genre, j'aime pas dessiner des mains, tu peux pousser dans le sens où on sent que c'est totalement assumé et que c'est pas de la paresse, en fait, tu vois. C'est... Moi, je sais que mon dessin, je le déconstruis en ce moment. J'essaie de le dessiner de moins en moins net. J'utilise le lasso dans Photoshop. C'est la partie technique.
Ouais. Alors moi, je maîtrise pas.
Ouais, mais
parce que
fait,
moi,
si
je dessine,
sur
une feuille blanche,
dessiner,
tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Je suis vraiment, je maîtrise pas du tout les logiciels, en fait. Donc, j'ai l'illustration numérique. En fait, je dessine en numérique comme je dessine sur mon papier. Je fais mes contours, je dessine le trait et puis je colorie, tu vois.
Ouais, moi, c'est sûrement mon passé de graphiste qui ressurgit, mais en fait, c'est juste que moi, je suis attiré personnellement par l'illustration qui déborde, qui est un peu
Moi, j'adore ça, justement, dans ton style.
Mais pourtant, il déborde pas tant que ça, mon style, tu vois ce que je veux dire?
Ben, si, au niveau des couleurs.
Je l'assume de plus en plus, je crois.
Ah ouais, moi, j'adore.
Non, là, je l'assume, je veux dire, je veux continuer à pousser ça, justement. Pourtant, j'ai un rapport à la couleur très compliqué.
Ah ouais?
J'étais très, très complexé par la couleur pendant très longtemps. En ce moment, j'aime bien faire des trucs fluo. J'aime bien y aller. J'ai pas encore beaucoup pu les montrer, mais ces derniers temps, je vais mettre des couleurs qui pètent, tu vois.
Ouais.
Et en fait, ça me fait kiffer. Et j'ai l'impression, ah ouais, c'est un peu... Bon, je m'habille pas encore en fluo, tu vois.
Moi, je fais beaucoup de noir et blanc.
Ouais.
Et nuances de gris, et une touche de couleur, tu vois. Mais c'est très, en fait, c'est très sobre.
Efficace.
Je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, c'est très simple.
Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment comme tu dis, c'est une sorte d'équilibre entre l'efficacité du message et une esthétique qui est accessible. Parce que c'est important, je crois, pour notre public, enfin en tant que professionnel de l'image, de montrer à notre client ou à notre audience que on se fout pas de leur gueule. Enfin, c'est genre on veut continuer à évoluer techniquement aussi, mais ça veut pas dire qu'on est obligé. De nouveau, on n'est pas obligé de faire ce qui est attendu de nous. Par exemple, t'es pas obligé de dessiner des mains parfaitement. Si ça t'ennuie à mourir, tu dessines pas des mains parfaitement. Mais moi, je suis pareil. Genre, au plus le temps avance, au plus je les dessine de manière grossière. Et en fait, au plus il y a d'énergie, en fait. Parce qu'on sent que je suis pas là en train de m'appliquer. En fait, c'est, ça fait presque, tu sais, quand quelqu'un, t'as en face de toi, quelqu'un qui, il en fait trop. C'est pas naturel. C'est presque gênant, en fait. Ou un film où tu sens que, ils en font trop, tu vois. Que quelque chose de juste un peu spontané,
c'est
une légèreté, une accessibilité. Mais il a quand même essayé d'aller au mieux de ce qu'il pouvait, de là où il en est. Il n'y a pas de paresse. Tu vois.
Bon. Après, c'est vrai que les artistes que je préfère font des choses très simples. Et c'est vraiment un style que j'aime beaucoup.
Ouais.
Mais après, c'est difficile. Je sais pas si c'est parce que je viens pas du tout du milieu de l'illustration ou pas. Mais je trouvais que c'était très difficile parce que, en fait, d'avoir ton style propre. Et j'avais tendance à faire un peu le style qu'on voit beaucoup, toutes les blogueuses BD. Le travail que je suivais sur Internet ou j'ai fait une école d'illustration à distance. En fait, enfin, c'est une formation, c'est pas une école diplômante, mais voilà, j'ai essayé de travailler un style parce que je pensais qu'il fallait que je dessine comme ça pour que ça plaise. Et je me suis un peu perdue, hop, je suis revenue je suis toujours en train de définir, je pense, un style assez naïf mais simple qui moi me va bien, mais c'est dur d'avoir ton propre style, en fait, et de l'assumer.
Ouais.
De pas faire comme tout le monde. En même temps, je pense que si tu fais comme tout le monde, tu ressors pas du lot et
oui. C'est toujours cette fameuse quête de soi.
Ouais.
En fait, à un moment donné, ce qui est sous le papier sera vraiment le reflet. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment pour montrer. Mais en fait, ça n'arrive jamais parce que c'est en faisant.
Ouais.
C'est en faisant naïvement, en se vautrant, en recommençant, en faisant des erreurs, qu'on arrive à décroter le machin.
Ouais.
Et qu'on en arrive à, ah, en fait, ça, c'est moi. Il y a plein de gens qui disent, ah non, moi, je montre pas tant que c'est pas parfait.
C'est ça, moi je pensais qu'il fallait que la proportion soit parfaite. J'aime beaucoup le travail J'étais un peu plus jeune, je suivais les tout premiers blogs BD, ceux de Margot Motin, et j'adore ce qu'elles font, mais elles le font tellement bien que c'est leur style à elles.
Bah oui, c'est ça.
Et qu'en fait, c'est pas du tout le mien. Mais je me disais, il faut que mes personnages soient comme ça, il faut que la proportion soit comme ça.
Non, c'est du Margot
Motin. Et en fait, non. Oui, c'est ça. C'est... Mais j'ai mis du temps à comprendre ça.
Ouais.
C'est bête, hein.
Bah, en fait, c'est bête, mais c'est pas du tout bête. Enfin, c'est dur, c'est d'une simplicité totale, et pourtant, pour seuls les vrais savent, tu vois.
Ouais.
Ceux qui vont sur le chemin de l'expérimentation, et que
oui.
Quand tu te vautres, tu te relèves, tu recommences.
Puis c'est dommage d'essayer de faire comme elle en moins bien.
Tu vois.
C'est ça. En
la
fait, c'est
la.
Mais c'est ça. Je me suis dit ça un jour. Je me suis dit ça. Pourquoi je fais ça? Parce que j'arriverai que à le faire moins bien. Et bon. Ben,
au début, c'est normal
de copier pour progresser.
C'est vraiment un tabou que j'ai aussi envie parfois d'adresser. C'est genre, en fait, au début, c'est normal. T'as des influences, t'as des choses qui t'ont marqué. Et en fait, tu passes à travers ça. Tu essaies, tu recopies, tu apprends. À l'époque, les apprentis, les peintres, ils faisaient les peintures de leur maître, en fait, pour apprendre le métier. Et puis après, tu te sépares de ton maître et tu vas sur ton chemin.
C'est
et...
ça. Après, j'ai fait ça aussi. Moi, j'ai dessiné Astérix quand j'étais petite.
Bah ouais, tout
à fait. En fait, t'apprends à dessiner comme ça, hein, en copiant des choses.
Et il y a aussi beaucoup de gens qui, du coup, n'osent pas parce que on va sentir que c'est trop copié. Mais oui, mais sois indulgent avec toi-même. Permets-toi d'essayer. Et à un moment donné, tu te détacheras. Bien évidemment, si tu vends des trucs... Et
oui, voilà, c'est ça.
Astérix,
bon, là, à un moment donné, on va dire... Astérix, bon... si tu le vends, non. Mais par contre...
Tu
commences à dessiner et t'adores Astérix et tu dessines Astérix, ben ouais.
Ben ouais.
C'est bien.
Donc maintenant, je crois qu'aujourd'hui, Astérix est un peu daté.
Ouais, bon. C'était mon époque.
Oui, non, mais pareil.
Non, c'était même pas mon époque, mais c'était, ouais.
Pareil.
On les avait tous, quoi.
J'aimerais juste te poser pour terminer une toute dernière question. Une fois qu'on se rend compte de nos spécificités, comment comment investir en soi et transformer ces spécificités en richesse. Avec guillemets.
Oh, elle est pas simple, ta dernière question. c'est vraiment un long cheminement, en fait.
Ouais.
Ça se fait pas... Moi, ça s'est fait en accumulant beaucoup d'informations.
Ouais.
Je pense que c'est propre à chacun. Après, pour la particularité qui nous correspond, c'est assez récurrent. Le besoin d'informations, besoin de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'avais besoin de regarder les études scientifiques... de lire tout ça et ensuite d'intégrer à partir du moment où tu le considères comme un trait de caractéristique comme je sais pas, j'ai des yeux verts, bon bah c'est que c'est ça va. C'est que c'est intégré et c'est derrière que ça se transforme un peu tout seul en richesse. Je sais pas si c'est un bon conseil de dire ça, mais c'est vraiment ça se fera pas en dix jours, hein.
Ouais.
C'est pas tu te poses la question, tu vas passer un test, on t'explique comment tu fonctionnes et pouh, tout va mieux du jour au lendemain, c'est génial. C'est vraiment prendre le temps d'avoir de l'information, de réfléchir, de douter, de prendre soin de toi, de faire ton propre cheminement par rapport à ça, de le dire ou de le garder pour toi.
Ouais. Et puis de donner, j'imagine. Enfin, pas forcément l'info, mais...
Moi, ça m'aide de transmettre.
De transmettre, ouais.
Mais je sais qu'il y a des gens, de le garder en petit jardin secret, c'est ce qui les aide.
Mais
donc, c'est vraiment très personnel.
Fleurir, du coup.
Ouais. Ah bah oui.
Parce qu'avant, il était laissé à l'abandon. Du coup, vu qu'il fleurit, ce qui en ressortira sera forcément bon, j'imagine.
Ouais, j'espère.
Ok.
Ouais.
Cool. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des
heures.
Mais là, je vois le temps qui
tourne.
Une heure et demie.
Oh là là, je suis désolée.
Non, c'est très bien. C'est juste là, le maximum.
L'épisode le plus long.
Ouais. Mais je le savais. Enfin, je veux dire, c'est un sujet infini. Ben, Chloé, je te remercie beaucoup.
Ben, merci à toi. Hein. C'était vraiment
merci pour
très
ton
riche.
Temps. Yes. Et puis, ben, au plaisir la prochaine fois que tu passes à Paris.
Avec plaisir.
Allez, ciao, ciao.
Merci.
C'était ma discussion avec Chloé Romanga. Un très grand merci à elle d'avoir accepté de prendre le temps de discuter avec moi lors de son dernier passage à Paris. Cette conversation m'a fait un bien fou et j'espère qu'il en a été de même pour vous. D'ailleurs, si les sujets abordés dans cet épisode vous ont interpellé, je vous invite à approfondir votre recherche. en fonction du sujet qui vous intéresse, vous pouvez visiter l'un de ces deux blogs, à savoir Réuriérature au sujet du haut potentiel et Chronique invisible au sujet des maladies invisibles, ou tout simplement visiter son site internet. Et si vous êtes vraiment, vraiment interpellé, vous pouvez également commander son livre sur sa boutique en ligne. Qui sait, si vous avez une adresse rigolote, peut-être qu'elle collera un timbre Batman sur votre enveloppe. Et puis s'il a envie, vous prenez de lui écrire un message, vous pouvez également la suivre sur les réseaux sociaux. Vous l'avez entendu, ce ne sont pas les comptes Instagram qui lui manquent. Pour vous simplifier la vie, j'ai mis tous ces liens dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou à me laisser un avis sur iTunes et Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir, et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Visitez jeremyclice.com/sens-créatif pour vous inscrire. Et puis, si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, pourquoi ne pas faire comme Chloé ? Devenez vous aussi membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Cela me permettra de continuer encore et toujours à développer ce projet, toujours plus loin, toujours plus haut. Les contributions démarrent à 2€ par épisode et les contreparties incluent des mini-épisodes exclusifs du podcast ainsi qu'un portfolio review entièrement personnalisé. L'occasion de se rencontrer et de discuter de votre travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreativepodcast en un seul mot. Le lien, comme d'hab, est à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne fin de confinement à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.